Europe Matin Weekend.
Mais oui, on est là. Bonjour, bonjour, allez-vous bien ce dimanche matin? Oh là là, il va faire chaud encore aujourd'hui, hein, jusqu'à 30 degrés. Eh bien, conséquence. Toute la jeunesse de Valérie Darmon, When the Rain Begins to Fall, quand la pluie commence à tomber. Ça va péter aujourd'hui, Valérie. Hein.
Ça va péter sévère à partir de la mi-journée sur l'Aquitaine et surtout en soirée sur toute la moitié ouest.
Alors, on détaille tout cela, bien sûr, dans cette matinale. Le programme, le foot, l'Eurovision, Matignon, toute l'info dans vos journaux. 6h40, une date, une histoire avec Michel Onfray. 6h50, la balade du dimanche en Corrèze, puis à Paris pour déguster plaisir du Saint-Honoré. 7h10, alors qu'il a été l'un des inventeurs du macronisme, je recevrai Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon. 7h20, Mathieu Alterman sur le Festival de Cannes qui débute mardi. Et puis à 8h moins le quart, ça vous concerne, on va parler avec Valérie de nos congés payés ce matin. Dimanche 15 mai, soyez les bienvenus dans votre matinale week-end. C'est parti. Il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe, première édition. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. La géopolitique s'invite à l'Eurovision, l'Ukraine a gagné et Volodymyr Zelensky veut organiser l'an prochain l'édition dans son pays pacifié.
Première mission du prochain gouvernement, travailler sur le pouvoir d'achat des Français. Carole Ferry nous expliquera comment et nous entendrons des restaurateurs.
Dans ce journal également, tout reste possible ou presque en Ligue 1, des places européennes à la relégation. On fait le point et nous serons également à Ajaccio qui retrouve l'élite après 8 ans.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger pour le quintet aujourd'hui à Paris-Longchamp. Mélanie Gomez et Julien Vignali nous conseilleront des petites escapades avec les ponts qui arrivent. Et Mathieu Noël plaidera pour le Gorafi, vous savez, le site parodique qui a de la concurrence. Mais d'abord avec vous, la tendance météo, Valérie.
Eh bien, la France qui est coupée en deux aujourd'hui avec un plein soleil sur la moitié est, des nuages et des orages forts mais de courte durée sur les trois quarts ouest en fin de journée et surtout ce soir.
Le détail météo, bien sûr, dans 7 minutes.
Europe 1. Merci de soutenir l'Ukraine.
Slava Ukraine!
Vive l'Ukraine!
Voilà les mots des chanteurs ukrainiens hier soir après leur victoire à l'Eurovision, victoire symbolique et géopolitique, bien sûr.
Oui, un grand moment d'émotion pour ce groupe Kalouche Orchestra qui a appelé à sauver l'Ukraine. Notre courage impressionne le monde, a écrit immédiatement après la victoire Volodymyr Zelensky sur Twitter. Le président ukrainien qui dit d'ailleurs vouloir accueillir la prochaine édition dans la ville de Mariupol, libre, pacifique, reconstruite.
Les forces russes qui pourtant continuent d'essayer de progresser dans le Donbass.
Oui, après 80 jours de guerre, les autorités ukrainiennes disent pourtant avoir repoussé des offensives. La situation semble aussi avoir basculé autour de Kharkiv, deuxième ville du pays. Les autorités ukrainiennes qui affirment avoir lancé une contre-offensive.
Lénaïque, c'est une journée clé pour les Finlandais. Leur pays doit faire acte de candidature à l'OTAN.
Tout comme la Suède, la Finlande veut rejoindre l'alliance militaire. Vladimir Poutine a jugé que la fin de la neutralité militaire d'Helsinki était une erreur. Les explications de Caroline Baudry qui est sur place pour Europe 1.
C'est dans les murs du palais présidentiel, une demeure jaune sur les quais d'Helsinki, que le président et la première ministre prendront la parole à 13h, suivi des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Devant des journalistes venus du monde entier, ils rendront officielle leur volonté de rejoindre sans délai les rangs de l'OTAN face aux géants russes, derrière 1300 km de frontières communes. Hier après-midi, Vladimir Poutine a de nouveau averti son voisin au téléphone. Cette bascule historique est une erreur. Selon lui, il menace de représailles technico-militaires. Depuis plus de 24 heures, la Russie a cessé de fournir de l'électricité à la Finlande, soit 10% de la consommation du pays. Ici, les entreprises se préparent à une éventuelle cyberattaque. Les politiques se disent confiants dans leur armée en cas de conflit. Une fois officialisée, la demande de candidature sera examinée par les 200 parlementaires demain, avant un vote mardi. Helsinki, Caroline Baudry, Europe 1.
Et la Turquie se dit prête à discuter avec la Finlande et la Suède, alors que Moscou a menacé de prendre des représailles, sachant que la Russie a d'ores et déjà cessé de fournir la Finlande en électricité.
Toujours à l'étranger. l'étranger, une fusillade a fait au moins 10 morts aux États-Unis.
Oui, un jeune homme armé a ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo dans le nord de l'État de New York. Le tueur présumé a été immédiatement arrêté sur place et le FBI dit ce matin enquêter sur un crime raciste.
Et puis on reste aux États-Unis où plus de 400 manifestations pour le droit à l'IVG ont eu lieu dans tout le pays.
La Cour suprême américaine prévoit de revenir sur la jurisprudence qui garantit ce droit. Quelques 450 cortèges étaient organisés dans des grandes villes, des marches à Washington, à New York, à Chicago, à Austin et Los Angeles. On entendra le reportage de notre correspondant à 6h30.
6h04, retour en France, les Naïcs. Qui pour succéder à Jean Castex à Matignon? Les choses se précisent.
Alors déjà, on parle d'une démission dans la journée suivie d'une désignation après la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite où il rendra hommage au président des Émirats Arabes Unis décédé avant-hier. Le JDD indique ce matin que 74% des Français sont pour une femme Premier ministre.
On en parlera tout à l'heure. Bien sûr, à 7h40, un gouvernement qui devra d'entrée de jeu plancher sur le pouvoir d'achat.
Avec des prix à la hausse de 5,4% en juin et sans doute encore plus d'ici la fin de l'année, il est difficile de joindre les deux bouts tant l'énergie et l'alimentation ont augmenté ces derniers temps. Emmanuel Macron veut donc une loi d'ici l'été. Précision Carole Ferry.
Ce qui est acté pour le moment, c'est que le bouclier tarifaire sur l'énergie est prolongé jusqu'à la fin de l'année pour le gaz et l'électricité. Pour le reste, tout est en cours de réflexion. Sur les carburants, par exemple, il y aura bien une aide après le 31 juillet, mais qui sera ciblée sur les gros rouleurs, fini les 15 à 18 centimes de ristourne pour tout le monde. Autre mesure sur la table, la mise en place d'un chèque alimentation. L'idée au départ était de viser les produits sains et cultivés en France. Mais pour aller plus vite, le dispositif sera sans doute moins vertueux. Il prévoit de verser une soixantaine d'euros à 8 millions de Français dès cet été. Le gouvernement s'est également engagé à supprimer la redevance télé dès cette année et à revaloriser le point d'indice des fonctionnaires en juillet. Et puis il reste des points en suspens. Y aura-t-il un gel des loyers, par exemple? Un panier de mesures qui aura un coût très lourd pour les finances publiques. Un projet de loi de finances rectificatif est d'ailleurs prévu après les élections législatives.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.
Tiens, justement, illustration de ces difficultés économiques, la restauration inquiète en tension.
Inflation et télétravail ne font vraiment pas les affaires des restaurateurs et tout particulièrement dans les quartiers d'affaires où la clientèle a quasiment disparu. Reportage de Noah Moussa.
Dans le restaurant de Gianluigi, le coup de feu du midi a laissé place au calme plat. Une situation désarçonnante pour les serveuses. Seules 4 tables sont occupées sur la trentaine que compte l'établissement, situé au cœur d'un quartier de bureaux à Paris. Aujourd'hui, le patron est devant son restaurant et tente d'appâter les clients. Tout l'inverse de ce qu'il vivait avant le Covid et l'arrivée du télétravail.
Avant, en plein service, le restaurant était plein. Il fallait réserver. On faisait des 80, 100 couverts tous les jours à midi. Aujourd'hui, si on arrive à faire 40, 50, c'est le maximum.
Et puis en plus, il y a la forte concurrence avec les plateformes de livraison. Même au bureau, les salariés se font livrer leur repas au lieu de se déplacer, comme le déplore Marcel Bénezet, président de la branche restauration du groupement national des indépendants.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les cuisines fantômes qui vous livrent en 10 minutes chez vous, donc on ne sait pas d'où ça vient exactement et ça fait du tort à la restauration.
Et selon Marcel Bénezet, les restaurateurs ont perdu 10 à 15% de leur chiffre d'affaires le midi par rapport à avant la crise.
Le reportage de Noah Moussa pour Europe 1.
Les Naïcs ont terminé avec les sports. La saison de Ligue 1 touche à sa fin. Hier, il y avait des enjeux à tous les étages.
Oui, l'OM a perdu gros dans la course à la Ligue des Champions après une défaite à Rennes. Monaco est passé devant avec son succès contre Brest. Et puis en bas de tableau, Bordeaux est quasiment condamné à la Ligue 2. Saint-Etienne est désormais relégable. À l'inverse, c'était soir de fête hier en Corse puisqu'Ajaccio retrouve l'élite. Reportage de Jean-François Pérez.
Dès le coup de sifflet final, des dizaines puis des centaines de supporters qui envahissent joyeusement la pelouse. 8 ans qu'ils attendaient ça. Dans les entrailles du stade, même euphorie, tout le monde s'embrasse, s'enlace. Le président Christian Leca est au bord des larmes.
C'est indescriptible. J'ai une joie, une fierté pour tout le club, pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde. C'est extraordinaire.
Ajaccio, petit budget de Ligue 2, club modeste et qui se revendique comme tel, avec comme symbole un entraîneur local attachant qui a tout connu depuis 40 ans et qui pourtant n'en revient pas. Olivier Pantaloni.
On est un petit club, on travaille dans les bureaux. Au plus, on est 8 ou 10 tous les jours. C'était pas pensable en début de saison. Et malgré tout, avec ces petits moyens, on a réussi à le faire.
Avec Ajaccio, c'est la Corse qui revient en Ligue 1 et avec elle certaines vertus que souhaite rappeler le directeur sportif et légende de la CA, Johan Cavalli.
Beaucoup décrit notre sport parce que la société tourne un petit peu en ce moment et est du mauvais côté. Mais on peut voir qu'on reste encore un sport où les valeurs peuvent faire beaucoup de choses contre l'argent.
Les concerts de klaxon ont duré une bonne partie de la nuit et ce n'est pas fini. Cet après-midi, le défilé des joueurs promet d'embraser une nouvelle fois la ville de Napoléon.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Côté sport toujours, il y avait de la boxe hier soir et Tony Yoka a perdu son premier combat chez les pros.
C'était le journal de Lénaïc Monnier. Merci Lénaïc, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors, le temps de votre dimanche, Valérie, pourquoi le temps vire-t-il à l'orage? Parce qu'il fait trop chaud.
Parce qu'il fait trop chaud, mais pas seulement. C'est parce qu'on a un anticyclone qui remonte rapidement d'Espagne vers la mer du Nord en ce moment. Dans le même temps, on a une dépression qui se rapproche de la façade atlantique. Et donc, entre les deux, le vent du sud ramène de l'air chaud d'origine subtropicale. Et donc, la masse d'air est déstabilisée, donnant des orages jusqu'à demain matin. Alors, le ciel de notre matinée reste quand même assez calme avant cet après-midi, une reprise orageuse, plutôt en deuxième partie d'ailleurs de cette instabilité sur toutes les régions qui vont s'étendre de Midi-Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, à l'Auvergne, en remontant vers les Pays de la Loire, le centre, le bassin parisien et les bords de Manche. D'ailleurs, ça tonne actuellement en Normandie. Nous ne sommes pas à l'abri d'ailleurs de vigilance dans l'après-midi, car ces orages sont rapides, mais peuvent être assez violents.
Prudent sur la route, hein, bien sûr. Ailleurs, ça donne quoi, hein ?
Ça donne du Roussillon à la Provence, un ciel toujours calme, juste un petit peu couvert à cause du vent du sud justement qui ramène des entrées maritimes. Sur la partie est, vous profitez d'une superbe et chaude journée ensoleillée, même si dans l'après-midi aussi, les orages se développent, mais uniquement sur les reliefs du Jura et des Alpes.
Il va faire chaud, hein ?
Il va faire chaud. Actuellement, les températures évoluent entre 19 à l'heure où on se parle, hein, à Cognac et à Nantes, 18 à Bordeaux, à Vannes et à Toulouse, 17 à Marignane et à Toulon, 16 degrés à Nice, 15 à Nîmes, 14 à Paris, 12 à Lyon, 11 à Strasbourg, 8 à Nancy. Et cet après-midi, des maximales entre 21 à Cherbourg, qui grimpent par rapport à hier de plusieurs degrés quand même, jusqu'à 33 à Auxerre, évidemment à l'ombre et sous abri, on le sait.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Allez, à suivre. Bien fait pour vous. On part en escapade ce matin et puis à Mathieu Noël, évidemment. Mais avant cela, les pronostics pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce quintet réservé à l'élite des pouliches européennes âgées de 3 ans qui en découdront sur la distance de 1600 mètres. Et parmi les 15 partantes, j'ai choisi l'anglaise, Cachet, le numéro 8, qui n'a pas fait de détails en dernier lieu chez elle à Newmarket, en remportant de bout en bout et sans aucune émotion les 1000 guinées, une épreuve toujours très convoitée. On lui opposera les numéros 14, Toy, une Irlandaise très bien née, tardive, mais que l'on dit en gros progrès le matin à l'entraînement, 7, Rosacea, 6, Daisy Mizzi et 10, Mangoustine, classés dans cet ordre aux 3 premières places du prix de la Grotte le 17 avril à Longchamp sur le parcours qui nous intéresse et qui peut être considéré comme l'épreuve préparatoire à cette poule d'essai des pouliches qui nous est proposée cet après-midi. Enfin, les numéros 1, Osmose, 4, Jumbly et 13, Marquise de Sévigné, ont toutes des arguments à faire valoir pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet, agrémenté d'une tirelire de 500 000 euros. Mon pronostic, 8, 14, 7, 6, 10, As, 4 et 13.
Et merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h12, Europe 1 parle de vous, de nous, avec les meilleurs moments de l'émission bien fait pour vous tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine la journaliste du magazine Avantage Marie-François et Gavins Clément-Cruise du Guide du Routard avec les longs week-ends qui arrivent. Et si on partait en escapade ?
Marie-François, au mois de mai, les Français ont souvent la bougeotte. C'est vraiment le mois de l'année qui est super plébiscité pour s'évader en week-end, clairement.
Bah oui, c'est sûr. En fait, il commence à faire beau. On a tous envie de s'évader. Et puis, on profite des ponts. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le mois idéal, en fait, pour commencer au moins à imaginer ou au moins à rêver si on ne peut pas partir.
Mais donc, c'est les ponts ou il y a d'autres choses à part les ponts?
Bah oui, parce que l'été arrive, quoi. On trépigne d'impatience un petit peu, là.
Oui, puis tous les sondages ont bien montré qu'il y a quand même un effet post-Covid, c'est-à-dire qu'après le Covid, on a vraiment redécouvert nos territoires et maintenant on s'autorise à partir sur des petites périodes plus près de chez nous pour en profiter vraiment.
C'est quoi les petites périodes? C'est combien de jours?
2-3 jours en fait.
Ah, c'est bien, ça, c'est parfait.
3-4 semaines, non, pardon.
Alors justement, Gavin, ce mois de mai est propice à ce que vous appelez des micro-aventures. C'est quoi une micro-aventure d'ailleurs? Vous avez une définition? Plus que ça.
Il y a un très bon livre même.
Eh oui, on a sorti Expérience et micro-aventures en France, au Routard, c'est juste d'arriver. Micro-aventure, c'est quoi? C'est pas loin, pas très longtemps, pas trop cher, souvent gratuit, on essaye hein, quand même.
Gratuit, carrément?
Ouais, on peut. Bah, une balade en forêt sur quelques jours, ça peut être sympa. Vous faites un bivouac entre deux et Julia, ça vous
c'est
dit
vrai, c'est gratuit. Genre, il faut l'attendre.
Moi, je l'ai dans mes toilettes, ce livre. Je dis la vérité, il est exceptionnel. J'ai découvert des petits coins.
C'est le plus bel hommage.
Des gens que je connaissais, mais dans lequel, pour le coup, je ne savais pas qu'on pouvait faire tant de choses originales, surtout parfois avec les enfants, parfois en amoureux. Enfin, il y a des tas de solutions. Voilà, c'est bon. Je vous ai fait une super pub.
Ah ouais, c'est super. Il est top. Faut être honnête, vraiment. Il est top.
Et puis, pas besoin en plus de partir au bout du monde. On le voit dans ce livre, mais c'est généralement quelque chose qui se fait en quelques heures. Hein. C'est ça, quelques heures.
Quelques heures. Ça peut être même sur une journée, hein, en effet. Quelques jours, souvent, on peut, par exemple, je ne sais pas, la forêt de Fontainebleau, pas loin de Paris, vous pouvez partir d'un point et la traverser.
Moi, j'y vais bientôt, alors il y a quoi à faire.
Et ben, vous pouvez partir d'un point et la traverser et dormir en plein milieu si vous voulez faire un bivouac.
On a le droit de faire ça ?
Et ben, y a des réglementations et dans le prochain Routard Magazine, le mec qui fait sa pub, mais dans le prochain, on travaille justement sur est-ce qu'on peut encore faire un bivouac ou du camping sauvage ? Est-ce que c'est possible ? On aura la réponse. Il faut à chaque fois demander l'autorisation à la mairie pour voir si c'est possible.
Marie, pour partir en quête d'aventure et sortir des sentiers battus pour avantage, vous avez repéré quelques sites internet très utiles, je crois, pour trouver des activités en plein air. Lesquelles ?
Alors nous, on a repéré 3 sites. Le premier, c'est chilloé.com. En fait, c'est une communauté de baroudeurs qui organise des voyages sur 2-3 jours, justement, tout compris, qui organise tout pour nous. On n'a plus rien à prendre en charge.
Alors Chilloé, je l'appelle quand même. Hein. C'est chilloe.com. Et donc
exactement.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ensuite, on a Canoë Go. Là, c'est en fait le site de la Fédération des sports de pagaie qui nous facilite la tâche pour louer un canoë, une pirogue, accompagné ou pas.
Ça, c'est pour Julia. Voilà. Elle va adorer.
Alors, en fonction de notre état de forme, voilà, ça peut être sympa. Et puis, on a repéré un autre petit site. En fait, c'est Itera Expédition. Eux, ils développent en fait des kits d'aventure avec, pareil, tout compris, les cartes, les repérages pour manger correctement au restaurant dans le coin, etc. C'est pas très cher, ils ont développé 2 destinations pour le moment, c'est l'île d'Oléron et les gorges du Verdon, puis ça va se développer là.
Pour beaucoup, hein, les week-ends dans la nature, c'était à Center Park. C'est Marie, dans le dernier numéro du magazine Avantage, vous craquez pour leur tout nouveau Center Parks dans les Landes, hein, c'est bien ça ?
Exactement, dans les Landes, ils ouvrent en juin. En fait, c'est un nouvel espace qui met l'accent sur l'authenticité, donc les jardins partagés, les marchés de producteurs locaux, ça se présente un peu comme un village à l'esprit bastide et l'idée c'est vraiment de centraliser toujours les activités familiales qu'on aime bien et évidemment le dôme aquatique pour occuper les enfants.
Il est toujours là celui-ci.
Toujours là, je vous rassure, mais dans un esprit plus nature vraiment pour se ressourcer.
D'accord. Alors une autre idée, Gavin, c'est de week-end sympathique, week-end pourquoi pas prolongé, ce sont aussi les parcs d'attractions. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce secteur alors
en ce moment, il y a le parc Astérix qui lance Tonnerre de Zeus 2, numéro 2. Mmh. C'est la nouvelle attraction, ça tremblote, on croit que c'est en bois, c'est assez horrible.
Mais c'est solide.
C'est solide. Les derniers wagons partent à l'envers. Enfin bon, c'est je crois qu'il y a 14 airtimes, comme ils appellent ça. Vous avez 14 fois la sensation d'être soulevé du sol.
Donc, les enfants vont aimer, les parents peut-être un peu moins.
Les enfants et les grands enfants aiment bien aussi. Hein, c'est assez sympa. Et sinon, ils ont un hôtel Quai de Lutèce qui s'appelle comme ça. Ils ont reconstruit Lutetia, Paris autrefois. C'est assez sympa.
L'hôtel ?
L'hôtel. Non, ça c'est... Pour vous, Julia, j'ai une idée. Au Futuroscope, ils ont un nouvel hôtel, ça s'appelle Station Cosmos. Et là, vous avez l'impression de rentrer dans une espèce de la station internationale. Wow. Il y a peut-être Thomas Pesquet qui est là, qui a laissé sa...
Ça doit être génial, ça.
C'est génial. Je l'ai fait. On a dormi et on a l'impression d'être dans la station spatiale. Et pour le petit-déj, vous avez une espèce de roller coaster qui vous amène votre plat avec un immense circuit de billes. Mais c'est gigantesque. Le petit déjeuner, c'est top.
Et c'est à Poitiers, donc.
C'est à Poitiers,
ça
au Futuroscope.
Ça fait au grand comme au petit,
exactement.
Ça.
Exactement. Hein,
ouais. Allez, pour finir, Marie, le luxe, c'est plus réservé qu'à une petite partie de la population. On peut maintenant partir dans un grand hôtel de luxe sans débourser une grosse somme. Alors, comment on fait ?
On va sur staycation.co. En fait.
Staycation, on va l'appeler, c'est STAY. C-A-T-I-O-N, donc Staycation, voilà. Ok.
Et c'est un site qui, tous les mercredis à partir de 9h, met en vente les grandes chambres d'hôtel un peu luxueuses à petit prix. En fait, c'est
Julia est en train de noter staycation.com. Mercredi prochain, elle met une alerte.
Une alerte, exactement, c'est ce
génial.
Qu'il faut faire. C'est super.
Mais c'est quoi, les gros hôtels qui n'arrivent pas à vendre leurs chambres?
Exactement. Et toutes les chambres qui n'ont pas trouvé preneur,
partout
en fait.
En France,
partout en France et même à Londres.
C'est génial.
Alors, nous, on a repéré, je crois, Lyon, Paris, Bordeaux et Londres.
C'est quand? Le mercredi?
Le mercredi 9h.
Mais, okay. Mais vous pouvez y aller tout de suite hein, pour voir.
Je ne peux pas, j'ai télématin. Mais c'est pas...
Voilà, bien fait pour vous. C'est du lundi au vendredi de 11h à midi.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
L'info express à 6h19, Lénaïque Monnier.
Une femme sera-t-elle à Matignon ce soir? Le nom de la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, ex-LR, revient avec insistance pour être Premier ministre. Emmanuel Macron souhaite voir une femme diriger le prochain gouvernement et il n'est pas le seul. 74% des Français le sont également, nous dit le JDD ce matin. Lidl rappelle des baguettes vendues entre le 3 mai et vendredi. Elles sont susceptibles de comporter des morceaux de métal. La Russie est entrée en Ukraine il y a 20 jours, les autorités ukrainiennes affirment avoir repoussé l'offensive dans l'est du pays. Le chef du gouvernement du renseignement militaire ukrainien prédit que l'Ukraine gagnera la guerre avant la fin de l'année. Double note d'espoir pour le peuple ukrainien qui a remporté hier l'Eurovision et qui espère donc accueillir l'an prochain le concours dans un pays pacifié. En Ligue 1, avant-dernière journée qui a rebattu les cartes dans la course au maintien, Metz chippe la place de barragiste à Saint-Etienne. Bordeaux est quasiment condamné à descendre en Ligue 2 après un nul 0-0 contre Lorient.
Merci Léna. À tout à l'heure. Dans un instant, Mathieu Noël, en avocat du site humoristique Le Gorafi. Merci d'être avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h21, Mathieu Noël à présent. Maître Mathieu Noël, qu'on réécoute le dimanche matin à 7h06. Mercredi dernier, notre avocat défendait les intérêts du site satirique Le Gorafi.
Europe Matin.
Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour, c'est revient Donald qui
vous fait rire, Mathieu. Ça pourrait être une plaidoirie bientôt, ça je pense. Revient Donald.
Alors ce matin, maître, votre client est vent debout contre Willy Schren, président de la Fédération des chasseurs, qui, par ses récentes déclarations très commentées sur les réseaux sociaux, porte selon vous un grand tort à votre client, le site humoristique Le Gorafi.
Nous sommes face, monsieur Pavlenko, à un cas très clair de concurrence déloyale. Depuis 2012, mon client, l'excellent site satirique Le Gorafi, s'emploie à faire rire les Français en prêtant à des personnalités publiques des phrases ridicules qu'ils n'ont évidemment jamais prononcées puisqu'ils sont ridicules mais pas complètement cons. Quelques exemples de titres récents pour vous donner le ton politique. Pour attirer l'attention de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse sort un album de reprise de Carla Bruni. Social, Laurent Wauquiez, les femmes en burkini devront nager uniquement dans le pédiluve. Média, une célèbre présentatrice météo déjà poursuivie pour rodéo sauvage sur la rocade de Sochaux, dérape en plein direct en prononçant un mot tabou.
Biflop.
On est évidemment dans le détournement potache, rien de tout ça ne s'est passé. Sauf le dernier truc, d'ailleurs je crois madame Adadi que vous avez rendez-vous avec la direction à ce sujet tout à l'heure.
Il est derrière la porte.
Bref, depuis 10 ans, la rédaction de mon client Le Gorafi se creuse la tête chaque jour pour trouver des petits titres rigolos. Hier, c'est donc en étant persuadé qu'il s'agissait d'un push du Gorafi que les internautes découvraient hilar cet article intitulé « Nouveau conseil de Willy Schren, le président des chasseurs ». Pour éviter les accidents, les promeneurs inquiets n'ont qu'à se balader chez eux. Alors là, normalement, sauf bien sûr si vous êtes Nicolas Bétou et que vous disposez d'un parc paysager de 17 hectares, vous permettant effectivement d'envisager de vous promener chez vous, votre première réaction, c'est de vous dire...
Quelle truffe celui-là, mais vraiment...
Ah non, précisément. Vous ne vous dites pas quelle truffe. Personne ne peut être assez truffe pour dire un truc pareil. Non, vous vous dites, haha, décidément, c'est loustique du Gorafi, ne manque pas d'imagination pour taquiner les chasseurs. Oui, parce que vous parlez comme ma grand-mère. Ça a été ma réaction aussi à la lecture de ce titre. J'allais même jusqu'à imaginer les autres articles parodiques qui avaient dû être suggérés en conférence de rédaction afin de dénoncer l'absurdité de la chasse. Drame au Biocop, un brocoli fou tue accidentellement un vegan. Promenade fatale, un radis perdu fauche un flexitarien en plein jeûne intermittent. Ou encore, une célèbre présentatrice météo ayant déjà reçu un avertissement pour vulgarité à l'antenne, manque de respect aux chasseurs en imitant les inconnus pour la 78e fois, la fois de trop estime Didier Bourdon sous le choc.
Parce que bon, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi.
Bref, à aucun moment, quelqu'un de sensé c'est ne peut imaginer qu'il ne s'agit pas là d'un article du Gorafi, mais d'une véritable déclaration de Willy Schren, le patron des chasseurs, dont on découvrira certainement un jour qu'il est en réalité un animal. minimaliste, proche d'Émeric Caron, qui a infiltré le mouvement des chasseurs pour le décrédibiliser de l'intérieur. C'est la seule explication plausible, puisque oui, après avoir bien ri, on découvre effaré que l'article du Gorafi renvoie à une vidéo de la chaîne LCP. On clique et là on comprend que c'est pas une fausse citation du Gorafi.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois ?
De le faire chez eux. Ils n'auront aucun problème.
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que 85% du territoire national est privé en France. La nature n'est pas à tout le monde.
Eh oui, Sandrine Rousseau et Brigitte Bardot en avaient rêvé. Willy Schren l'a fait. Coucou les pauvres. Vous voulez pas prendre une balle perdue en forêt? Baladez-vous sur votre balcon, que diable. C'est largement suffisant un balcon pour prendre l'air.
De quoi ils se plaignent ces ingrats?
Mais oui, Nicolas, mais oui. Se balader dans la nature, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau caprice de smicard? Promenez-vous dans vos jardinets, vos beaux windows, et cessez de nous emmerder avec ces histoires de balles perdues. Bon, des conneries, on en dit tous, ça nous échappe. Vous-même, Dimitri, ça vous est arrivé, que ce soit sur le plan politique...
Finalement, on était bien avec Nathalie Arthaud. Hein.
Ou sur le plan animalier...
C'est vrai, on a passé un bon moment.
Ou sur le plan animalier, où là non plus, vous n'avez pas toujours brillé par votre connaissance encyclopédique du vivant.
En fait, il y a eu deux extinctions massives dans les 500 000 dernières millions d'années. Ouais, ils devaient faire 25 mètres de haut, les pandas. Ils battaient contre les tyrannosaures. Ils ont gagné, d'ailleurs. Tu vois, à bouffer du bambou, on s'en sort mieux qu'à bouffer ses congénères.
Bon, on dit tous des conneries. On dit tous des conneries, c'est humain. Mais il y a chez Willy Schren une notion de récidive, et même d'industrialisation de la connerie qui ne peut pas rester impunie. Pour mon client, le Gorafi, à qui Willy pique son job, mais également pour les chasseurs intelligents qui sont quand même une majorité. Chasseurs pour lesquels vous avez, Dimitri, je le sais, beaucoup de tendresse.
J'adore leurs fusils, ils sont magnifiques.
Oui, ils ont de très beaux fusils, respectons-les pour ça. Et respectons également le travail des humoristes qui ne peuvent pas pratiquer leur métier si Willy Schren s'obstine à sortir de meilleurs punchlines qu'eux. Comme vous m'êtes sympathique, je peux néanmoins vous révéler la une du Gorafi demain. Un matinalier qui, jusqu'alors respecté, pète un plomb et imite un moustique-tigre en direct sur Europe 1.
C'est le moustique-tigre.
Quel talent ! C'était tellement réaliste, on en a frissonné en studio. Et le cri de l'épervier en rude, tu le tiens aussi ? Ah non, non, ça c'est moins flagrant, tu le tiens un peu moins bien.
Je crois que c'était...
Non, c'était la guerre des étoiles, ça vous...
Mais cette théorie sur les pandas géants était aussi intéressante, mériterait d'être creusée, développée un peu à l'antenne, je pense. Nos auditeurs ont le droit de savoir.
Ah oui, je vous raconterai, vous avez coupé, c'est pour ça, l'histoire est
plus... sinon ça avait beaucoup de sens, évidemment.
L'histoire tient plus debout. Après, les extinctions massives, ça c'est vrai, hein. Je maintiens. Mais l'opossum géant d'Australie qui faisait 25 mètres de haut...
Vous maintenez cette
mais
théorie.
Oui, mais oui, bien sûr.
Très bien, j'enquêterai.
Et les premiers hommes qui sont arrivés là-bas, les ont tous bouffés, en fait, parce que c'était un animal pacifique. Il était tellement grand, personne n'allait l'ennuyer.
Donc des hommes ont cohabité avec un opossum de 25 mètres de haut. C'est ce que vous dites au micro d'Europe 1 aujourd'hui. Non, mais...
Écoutez, je vous enverrai ma bibliothèque, je vous envoie la liste.
Non, mais il y a un podcast qui arrive là sur Europe 1. Le pandas géant par Dimitri Pavlenko.
Contre le tyrannosaure, voilà.
Les plaidoiries de Mathieu Noël, c'est du lundi au jeudi à 8h moins le quart.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, dans 3 minutes, le journal Les Manifestations pro-IVG à Washington. Et puis la sécheresse qui s'installe pour les producteurs de blé. Mais tout de suite, un peu de musique.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et je vous redonne notre page Facebook pour bien sûr réagir à l'actualité, donner votre avis. On se parle Europe Matin Week-end, 6h30 sur Europe 1. L'information de ce dimanche matin, Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour le droit à l'avortement aux États-Unis hier. L'accès à l'IVG menacé par la Cour suprême. Nous serons à Washington dans quelques instants.
Demain, plus besoin de masques dans les transports. Cet allègement notable inquiète les immunodéprimés.
Et puis nous entendrons le malheureux Tony Yoka. Le boxeur français a subi sa toute première défaite chez les pros hier. Il s'incline au point à Paris face au Congolais Martin Bakolé.
À suivre dans la prochaine demi-heure, une date, une histoire. Philippe Legrand reçoit ce matin le philosophe Michel Onfray. Et puis bien sûr, la balade du dimanche à 6h50, direction la Corrèze, à la découverte du plateau des Mille Vaches. C'est fabuleux. Et puis le dessert parisien du Saint-Honoré. La tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Déjà 6 départements en alerte orange orage, la Normandie et la Sarthe. Prudence d'ailleurs sous ces forts orages qui vont se généraliser d'ici demain matin à toute la façade ouest. Pour le reste, grand beau dans l'est sous un plein soleil, grosse chaleur à tendance lourde dans le sud-ouest.
Et la météo version longue, c'est dans 7 minutes.
Europe
Europe 1.
Nouvelle forte mobilisation des défenseurs du droit à l'avortement hier aux États-Unis.
Plus de 400 manifestations et des dizaines de milliers de personnes au total pour protester contre une possible remise en cause du droit à l'IVG par la Cour suprême, dont les 9 juges majoritairement conservateurs pourraient décider de revenir sur un arrêt faisant de l'avortement un droit constitutionnel. Nicolas Pineau, vous étiez justement dans le cortège de Washington.
Oui, les manifestants ont fait entendre leur voix dans la capitale américaine jusqu'aux marches de la Cour suprême. Tracy, la cinquantaine, est venue spécialement de Floride pour défendre le droit à l'avortement.
Je pense que c'est l'une des marches les plus importantes pour les femmes, pour qu'on continue à décider nous-mêmes de ce qu'on fait avec nos corps. Je suis très en colère. C'est une attaque contre les femmes et ce n'est pas juste.
Les pro-avortements veulent mettre la pression sur la plus haute juridiction du pays. Cathy a déjà eu recours à l'avortement dans sa jeunesse.
En tant que femme, ma voix ne compte pas dans ce pays. Le message qu'on envoie au monde, c'est qu'ici, on s'en fiche des femmes. On est très en retard sur le droit des femmes. Il faut que ça change.
Dans le cortège Bon Enfant, une majorité de femmes, mais aussi des hommes venus soutenir le droit à l'IVG.
C'est important que les hommes montrent qu'ils soutiennent le droit des femmes à disposer de leur corps. Beaucoup pensent que ce combat ne concerne que les femmes. Mais c'est notre responsabilité en tant qu'hommes de les soutenir pour leur liberté.
La Cour suprême devrait rendre sa décision sur le droit à l'avortement dans les prochaines semaines. Washington, Nicolas Pineau, Europe.
Et puis les États-Unis également endeuillés par une nouvelle tuerie. Hier, un jeune blanc de 18 ans, lourdement armé, a fait 10 morts, majoritairement des Afro-Américains, dans un supermarché de Buffalo. Le FBI enquête sur un crime raciste. Emmanuel Macron attendu ce matin aux Émirats Arabes Unis. Le président rend hommage à son homologue défunt, le cheikh Khalifa. Il félicitera aussi le demi-frère Mohamed Ben Zayed, le nouveau président des Émirats.
Et puis en France, on attend toujours le nom du nouveau Premier ministre.
Une certitude, Jean Castex va démissionner, reste à savoir quand. Et une probabilité, une femme devrait lui succéder. Trois noms émergent dans le journal du dimanche. L'ex-LR Catherine Vautrin, l'ex-PS Marisol Touraine et l'actuelle ministre du Travail Elisabeth Borne.
Et quelle qu'elle soit, Raphaël, elle arrivera à Matignon au moment où l'épidémie de Covid flanche.
Oui, seules 40 000 contaminations par jour en ce moment. Et demain, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports. Ça va libérer beaucoup d'usagers, mais contraindre les immunodéprimés à redoubler de vigilance au CNTA.
Des mois que Raymond, 66 ans, se sent oublié, mis de côté. En chimiothérapie pour soigner un cancer du sein, la sexagénaire ne met pas un pied dehors sans masque par peur de la contamination. Pour elle, la décision d'enlever le masque dans les transports, c'est donc un risque de plus pour sa santé fragile.
Vous voyez le métro, vous voyez tout ça. Est-ce que vous trouvez normal qu'on enlève les masques, quoi ? On ne sait pas qui est à côté de soi, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent de nous.
S'adapter encore à contre-cœur, regrette aussi Jessica. Immunodéprimée également, elle souffre d'insuffisance rénale depuis l'enfance. Pas le choix, elle devra changer ses trajets.
Je vais choisir mes horaires au plus possible. Et si je vois que par exemple le bus est plein, je ferai un peu de mètre à pied et je prendrai peut-être un suivant, quoi. Mais comme tout, depuis 2 ans, je vais adapter, on va dire, la vie, quoi.
Un quotidien fait d'angoisse, car même si on a tendance à l'oublier, souffle Jessica, l'épidémie n'est pas terminée.
Océane Théard.
Et puis ce sera l'un des dossiers urgents du futur gouvernement, les agriculteurs face à la sécheresse.
Les producteurs de blé notamment, ils anticipent déjà de fortes pertes dans leur récolte en raison des températures anormalement hautes ces derniers jours et ces prochaines semaines. Comme dans la région de Bordeaux où il a fait plus de 30 degrés mardi dernier, Thibaut Hu s'est rendu dans une exploitation agricole.
La terre est craquelée, là. Elle manque d'eau. Sérieusement.
Sous les pieds d'Eric Apathy, le sol craque, part en poussière et le blé souffre.
On aperçoit l'épi et il va bientôt fleurir. Et bien c'est pile poil à ce moment-là qu'après la floraison, il y aura le remplissage du grain. Et bien on tombe dans la période la plus sèche qui soit. Ce n'est que ce qui est approvisionné en eau qui sera récolté. Le restant, de toute manière, ne va pas grossir.
Une goutte de sueur sur le front, cet agriculteur est très inquiet. Il risque de perdre 30% de ses récoltes cette année. Et pour stopper l'hémorragie, il arrose presque tous les jours, un coût colossal en énergie.
Donc je dois être à 3000 euros par an à peu près d'énergie fossile. En quelque sorte, ça va être 6000 euros, quoi. C'est pour ça que ça tombe vraiment au plus mal financièrement, cette sécheresse. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir à supporter de tels coûts.
Alors pour prévoir les années suivantes, Eric Apathy installe des panneaux solaires pour produire de l'électricité en espérant réduire ses pertes. Sinon, dit-il, sa petite exploitation de 10 hectares de blé pourrait bien disparaître. À Montesquieu, Thibaut Hu, Europe 1.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se réjouit de voir la musique ukrainienne conquérir l'Europe. L'Ukraine a remporté l'Eurovision hier soir. Le groupe Kalush Orchestra interprète du titre Stefania, lançait un appel à soutenir leur pays face à l'offensive russe. Normalement, les messages politiques sont proscrits, mais les organisateurs de l'Eurovision l'assurent, il n'y aura pas de disqualification.
Allez, le sport, le boxeur Tony Yoka s'est incliné hier à Paris.
Défaite au point face au Congolais Bakole à l'Accor Arena. Tony Yoka visiblement marqué à chez nos confrères de Canal+.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Je sais que vous avez à cœur de faire un beau combat, merci. Je sais que vous avez toujours été derrière moi pendant ces années depuis ce titre olympique. Aujourd'hui Martin était plus fort sur le ring. Je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Voilà, il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses.
Tony Yoka au micro de nos confrères de Canal+. C'est sa première défaite chez les pros. Il affiche donc un bilan de 11 victoires et une défaite.
Hein. Et c'était le journal de Raphaël Delvolvé. À tout à l'heure, Raphaël.
La météo, Valérie Darmon. Le temps sera lourd et orageux sur une grosse moitié ouest. Hein.
Absolument, avec 6 départements déjà placés en alerte orange, orage, forte pluie. À partir de 15h jusqu'à 21h, la Sarthe, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche. Donc c'est ce dimanche qui sera agité sur ces régions notamment, mais aussi sur toute la façade ouest à partir de cet après-midi. Orage bref, très électrique. Le risque de foudroiement est assez élevé. Le risque de chute de grêle aussi. Les cumuls de pluie peuvent atteindre 10 à 30 mm en quelques minutes avec des risques de ruissellement urbain. Et donc actuellement, déjà, le ciel normand, voit son ciel tonner.
Mais donc c'est cet après-midi que ça s'aggrave. Hein.
Oui, absolument. La menace orageuse va s'étendre alors de l'Aquitaine en début d'après-midi jusqu'à la région parisienne, l'ouest de la Bourgogne, la Champagne, les Hauts-de-France. Ça, c'est pour ce soir et la nuit prochaine. Les orages qui seront donc assez forts avec de la grêle et des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Sur le reste de la France, le risque d'orage est plus limité et limité surtout au relief de l'Est. Pyrénées, Alpes et Jura sont concernés et ailleurs. La journée qui est plutôt ensoleillée, excepté près du golfe du Lion où les nuages bas sont plus compacts qu'hier. Mais rien de méchant à signaler.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. Allez, dans 10 minutes, on partira en balade avec Vanessa et Marion, bien sûr, sur le plateau des 1000 vaches. C'est beau, c'est en Corrèze. Et puis également à Paris, mais tout de suite, Philippe Legrand. Et tous les dimanches matin, vous le savez, un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire. Ce matin, les confidences du philosophe Michel Onfray. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1969, une première sur la Lune. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour Philippe.
Philosophe et combattant à la fois, votre plume cultive la polémique pour entrer de plein pied dans les débats de la société. Michel Onfray, vos études de philosophie vous ont conduit entre autres à l'enseignement, puis à la naissance de votre université populaire de Caen, où vous dispensez votre cours de contre-histoire de la philosophie, inspiré par vos ouvrages du même nom, de véritables best-sellers. On parle tout de même d'un cumul de 900 000 exemplaires. Être contre plutôt que pour serait votre école de pensée, une façon peut-être d'être sur le qui-vive à tout moment et de ne pas laisser dormir la réflexion. Avec plus d'une centaine d'ouvrages publiés, traduits dans 25 pays, vous faites partie des philosophes prolifiques. Votre dernier livre, j'allais dire vos derniers livres, Foutriquet d'une part, et les anarchistes sont de la même veine que les précédents. Vous êtes sur le ring des opinions. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 21 juillet 1969, le premier pas sur la Lune. La mission Apollo est en route. L'émotion au micro d'Europe 1.
Ça y est, l'homme est à la Lune.
Vous entendez ici l'applaudissement. Exactement, à l'heure précise, le 20 juillet 1969, alors qu'ils étaient partis depuis 14 jours, depuis qu'ils étaient partis depuis 5 jours et que Collins tourne pour la 14e fois autour de la Lune, à 21h18, le module lunaire a touché la Lune.
Le module lunaire a touché la Lune, ça c'est... Ils arrivent, ils sont là, sur la Lune. Et votre date, le 21 juillet 1969, est celle du lendemain. Au fond, ils sont là, ils sont arrivés et ils vont poser le premier pied sur la Lune. C'est un pas, alors la phrase est très connue, qui fait avancer l'humanité. C'est Neil Armstrong, hein, le commandant de la mission, et Buzz Aldrin. Armstrong et Aldrin sont les deux qui vont être les premiers dans cet espace particulier. Pourquoi ce choix de cette date en 1969?
D'abord pour une émotion particulière sur le moment,
J'ai 10 ans, mon père m'a expliqué les étoiles, le cosmos. Mon père était ouvrier agricole, il parlait assez peu, il transmettait peu de choses volontairement. Il transmettait par son comportement. Mais il m'avait expliqué que la lumière des étoiles était partie il y a des millions d'années, qu'elle arrivait seulement maintenant et que ce qu'on voyait aujourd'hui avait été vivant jadis, mais que ces étoiles étaient mortes. Et puis quand il est décédé dans mes bras alors qu'on était en train de parler de l'étoile, l'étoile polaire. Je vais pas raconter cette histoire, je l'ai raconté dans le début de Cosmos, mais on regarde le ciel, je le conduis de chez moi, chez lui, dans mon village natal, et il me dit qu'il faut que je me mouche. Alors il se mouche, je regarde le ciel est tout rougeoyant et on ne voit pas notre étoile polaire. Je dis on ne verra pas notre étoile ce soir. Il me dit non, le ciel est couvert et il est mort. Donc on a eu une histoire, mon père et moi, qui passait par le cosmos et par les étoiles. Et cette idée d'une lune si lointaine qui devenait si proche puisque les hommes y mettaient le pied cette fois-ci, ça a été quelque chose d'assez magique. Et mes parents, on avait offert une télévision à mes parents, on avait regardé ces images, je dirais pixelisées aujourd'hui, enfin plutôt une espèce de gros grains, plutôt dans des variétés de gris plutôt que noir et blanc. Et cette voix-là que vous restituez avec ce bobineau, enfin tout ça, ça m'a paru assez sidérant. Et c'est plus tard, bien sûr, que je me suis dit, mais là, c'est 1492, quoi. C'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Et c'est un autre monde. C'est la première fois qu'un homme quitte la Terre et voit la Terre d'un autre astre. De l'astre de la Lune. Et
vous aviez la télévision, Michel Onfray?
Oui, à mes parents, on avait offert à mes parents une télévision. Les voisins avaient acheté une autre télévision et donc on avait hérité d'un vieux téléviseur dont les voisins s'étaient débarrassés. Oui.
Et donc vous vous souvenez de cette émotion-là, oui, quand oui. même, de ce premier
oui,
pas
oui. On vivait dans 17 mètres carrés, donc c'était la cuisine, la salle de bain, enfin tout quoi. Et il y avait, je me souviens de la couleur de la nappe, de la toile cirée, comme on disait très précisément.
Qui était lumineuse, comme votre père qui aimait ses étoiles, elle était une couleur claire.
Un jaune particulier.
Jaune, ben voilà, jaune soleil.
Un jaune que j'aime encore aujourd'hui, ceci expliquant cela. Et de fait, je me suis dit, c'est quand même assez magique cette histoire. Elle est très lointaine et en même temps, elle est très proche. Et c'est plus tard, plutôt ces temps-ci, là, que je me dis, mais finalement, notre civilisation s'effondre, on va vers une autre civilisation, et c'est la civilisation transhumaniste. Ces gens qui veulent reculer la mort, même faire mourir la mort, et puis qui veulent aussi sortir l'homme de la planète, en disant il va falloir, à un moment donné, le soleil va exploser, il n'y aura plus de planète Terre, ça c'est évident.
Cette révolution est quand même une évolution, parce que c'est un pas franchi, un pas incroyable.
Oui, non mais c'est majeur. Moi j'ai vu à Chicago, ou à Washington, je ne sais plus, mais enfin le musée de l'espace, et j'ai vu cette capsule lunaire, mais j'étais sidéré de voir l'intérieur de cette capsule avec quasiment...
Étroite
des morceaux, oui,
fragile
oui, avec des morceaux de scotch ou de Chatterton, ouais. On s'est dit mais c'est pas possible qu'il soit allé sur la Lune avec un bricolage pareil. Les complotistes d'ailleurs pourraient dire, oh, c'est pas possible, on n'est pas allé sur la Lune avec ce genre de choses. Et si. Et donc il y avait là l'avion de Louis Blériot, enfin on se dit, mais tout ce travail entre Blériot et puis la capsule spatiale, je pense effectivement qu'on ouvre une nouvelle ère de l'humanité avec ce jour-là.
Ça vous tente, ces voyages, puisqu'on vous dit maintenant que c'est la prochaine étape, hein, les voyages dans l'espace.
J'adorerais.
Ça vous fait rêver,
oui,
Michel
Onfray? Savez, moi je dirais infarctus, accident cardiaque, problème d'AVC, je suis pas le bonhomme pour ça, sauf à vouloir mourir dans une fusée.
Mais ça vous inspire quand même ou pas? Vous dites,
ah oui.
Je reviens sur ce que vous évoquiez qui est très touchant sur votre père et cette relation que vous aviez avec lui, Michel Onfray. Il y a la lumière, hein, les étoiles qui donnent la lumière. Vous aviez 10 ans à peu près à l'époque. Finalement, ça vous a inspiré parce que c'est ce que vous cherchiez en tant que philosophe.
Complètement. D'ailleurs, il n'y a que ça, il n'y a que la lumière. Je pense que la lumière disparaît, il n'y a plus de vie. Enfin, chacun sait ça. On voit bien que quand la météorite tombe et qu'il y a un nuage de poussière, il y a tout un tas d'espèces qui disparaissent de la planète. Il faut que les poussières tombent, mettent un certain nombre d'années à tomber pour que la lumière puisse revenir, la photosynthèse, enfin toutes ces choses-là. Et moi qui aime la nature, on voit bien quand l'hiver arrive, de moins en moins de lumière, de plus en plus de nuit, donc les feuilles commencent à devenir marron, à s'assécher, à tomber, à disparaître. Et puis voilà, c'est l'hiver. Et puis là, tout de suite, c'est très beau dans mon jardin, par exemple. On commence à voir les premiers bourgeons, puis les fleurs, et puis les feuilles, et puis on se dit, ben voilà, c'est le cycle de la vie et c'est le cycle de la lumière. Je ne crois pas qu'il y ait de religion indépendamment de la lumière. Pas le temps pour ça, mais le christianisme est une religion de la lumière et les églises, jadis, quand elles étaient encore symboliques, les églises, elles étaient orientées évidemment vers le soleil levant.
Michel Onfray, la lumière, c'est ce que vous cherchez et que vous nous racontez dans vos livres. Je pense à ces deux derniers livres qui paraissent aux éditions Albin Michel, Foutriquet d'un côté et puis Jeune artiste de l'autre. Alors, Foutriquet commence, c'est votre observation aussi de philosophe qui se laisse tenter par la politique, mais il y a quand même cette notion que vous rappelez, la Révolution française, on a en tête évidemment évidemment l'histoire, et puis 1789, un peu moins la Commune 1871 que vous rappelez. Allez, les grandes lignes.
Bah d'abord, c'est sur plusieurs années, la Révolution française. Enfin, je dirais de l'abolition des privilèges, ou disons de la prise de la Bastille jusqu'à Bonaparte, jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire, sont plusieurs années. Il se passe quand même beaucoup de choses. La Commune, ce sont quelques jours. C'est à peine un mois. Donc, Et donc, on a une révolution d'intellectuels, de bavards et de parleurs avec la Révolution française.
L'autre livre que j'évoquais, Les Anarchistes, un titre, il faut revenir dessus. Parce que derrière, sont les trésors retrouvés des arts incohérents. Alors, il faut expliquer. Oui. C'est très profond parce que finalement, ça fait partie de l'histoire de l'art. Et finalement, on a le sentiment que c'est un peu à l'écart de ce que l'on sait. On pense peut-être que les surréalistes sont pas loin d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Les anarchistes, c'est un mot de Marcel Duchamp que je reprends à mon propre compte. Et je vis en Normandie, comme chacun sait, et donc je suis du côté de la gare Saint-Lazare. Il y a un jour quelqu'un qui me dit « Ah, Michel Onfray, vous avez parlé des auteurs, des artistes incohérents. J'ai des choses à vous dire, vous avez 5 minutes sur ce sujet ?» J'ai dit bah « Oui, bien sûr. » Et il me dit « J'ai découvert 19 œuvres des artistes incohérents. » Évidemment qu'on avait perdu, on ne savait même pas si elles existaient. Ce sont des gens qui, autour des années 1880 en France, sont des gens qui inventent le monochrome, le ready-made, la modernité, vraiment. La musique sans son, on se dit « Mais ces gens ont tout inventé. » Au point même qu'on peut imaginer que c'est un canular et que finalement des gens au XXe siècle auraient inventé un mouvement qui n'aurait jamais existé que par des catalogues qui nous resteraient. Et puis finalement, pas du tout. Ces œuvres, je les ai vues, on va les voir bientôt. Et je me suis dit, mais c'est formidable, c'est toute la modernité. Donc j'ai écrit un livre sur ces artistes en disant, eh bien, toute cette pseudo-avant-garde du XXe siècle, elle a pillé une véritable avant-garde dont on n'a jamais parlé.
Deux livres, chez vous, pour vous et pour nous, ceux qui vous lisent, aux éditions Albin Michel, Foutriquet et les Anarchistes, dont vous venez de nous parler. Avec vous, on a marché sur la Lune. C'était votre choix d'une date, le 21 juillet 1969. On va se quitter avec une chanson qui est dans votre playlist « Quand on perd un ami », signé Gérard Manset. À bientôt, Michel Onfray.
Merci.
Quand on perd un ami, c'est peut-être qu'il dort dans un autre univers de gel et de bois mort, dans un autre décor, simplement affaibli. Quand on perd un ami, son âme se décolle comme un papier jauni, papyrus décolle. C'est que l'on a grandi.
Quand on perd un ami, c'était Gérard Manset en 2004. C'était le choix de Michel Onfray, l'invité ce matin de Philippe Legrand.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Pile 7h10, l'essentiel de l'info de ce dimanche, Raphaël Delvolvé.
Emmanuel Macron aux Émirats Arabes Unis ce matin pour un hommage au président défunt, cher Khalifa. En conséquence, le toujours Premier ministre Jean Castex ne va pas au Vatican. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, représentera la France pour la canonisation de Charles de Foucault tout à l'heure. Trois villes de l'est de l'Ukraine sont ciblées par l'offensive russe dans le Donbass. Severodonetsk, Soledar et Bakhmout, selon le chef de la diplomatie ukrainienne. L'Ukraine, qui a un peu de baume au cœur depuis cette nuit, elle a remporté l'Eurovision. Une conséquence géopolitique très concrète de la guerre en Ukraine, la Finlande va officiellement demander l'adhésion à l'OTAN aujourd'hui. Le président finlandais a prévenu son homologue russe. Hier, Vladimir Poutine lui a signifié qu'il faisait une erreur. Un automobiliste connu pour sa proximité avec les thèses d'extrême droite, arrêté et placé en garde à vue hier soir à Paris, il est accusé d'avoir tué par balle un individu après une bagarre dans le 18e arrondissement. 8 ans après, revoilà l'ACA. Ajaccio remonte en Ligue 1 après sa victoire face à Toulouse 1-0 lors de la dernière journée de Ligue 2 hier soir. Auxerre finit 3e et sera donc barragiste.
Merci Raphaël. À 7h, le prochain journal. Dernières heures de Jean Castex à Matignon avant remaniement et le Grand Prix moto cet après-midi au Mans. Mais avant cela, dans 2 minutes, notre balade du dimanche avec Vanessa et Marion. Et je suis en joie, il y a du gâteau. C'est votre matinale week-end sur Europe 1. On parle de vous, on revient tout de suite.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche avec Vanessa et Marion. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
Alors, direction la Corrèze avec vous, Vanessa, ce dimanche matin pour un voyage nature en XXL sous les étoiles du Parc naturel régional de Mille Vaches.
Qui vient d'être labellisé réserve internationale du ciel étoilé par l'International Dark Sky Association. Okay. Et en fait, c'est pas rien, parce qu'il n'en existe que 4 en France et 19 dans le monde. Mmh. Et c'est vrai que le ciel du Limousin est assez exceptionnel. Bah, pourquoi ? Parce qu'on est loin de toutes ces grandes villes comme Limoges et Clermont-Ferrand. On est dans un environnement nature, nocturne et assez exceptionnel, pas très très loin des Landes et des Tourbières. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas énormément de pollution urbaine. Les nuits sont donc bien noires, on peut voir les étoiles.
Puis on est collé au Cantal.
Exactement.
Il y a des activités autour de cette thématique de la nuit, Vanessa, alors ?
Alors déjà, il y a des sorties nocturnes classiques, évidemment, avec des astronomes amateurs pour observer le ciel. Vous pouvez même aller vous-même sur ces sites. Il y a des sites d'observation pré-ciblés, rien que pour vous. Et puis il y a aussi des événements qui viennent rythmer la découverte du ciel cette année. Violette Janet-Violant, qui est la coordinatrice de la RIST, nous présente par exemple quelque chose que vous allez pouvoir découvrir.
Allez. On a la chance sur notre territoire d'avoir la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Chaque année sort une tapisserie des murs pour aller l'exposer sur la réserve internationale de ciel étoilé, 2000 vaches, avec des tapisseries autour de la nuit. Nous avons eu l'occasion d'en avoir deux autour de l'univers de Tolkien, par exemple, l'année dernière et il y a 2 ans.
Alors voilà, c'est pour faire ressortir votre petit côté Hobbit ou Gandalf. Je ne sais pas lequel sommeil en vous, Thierry, mais enfin bon, voilà. Mais en parlant de fantastique, de légende, Violette vous suggère aussi autre chose.
Allez.
On propose en fait aux visiteurs de venir avec nous et l'Institut Occitan de la région, de revivre l'éveil occitane comme d'antan, avec un feu, avec une marche. Et là, on découvre l'ensemble des contes du Limousin sur la nuit et les savoir-faire.
Alors Thierry, est-ce que vous connaissez justement la légende des 100 pierres ?
Pas du tout, dites-moi.
Alors on dit qu'un jour une bergère fut prise par un terrible orage, qu'elle implora le diable de venir à son aide. Et elle vit alors d'un seul coup ses vaches se pétrir en pierres. Et c'est cette légende qui met, en tout cas tout le monde d'accord, sur l'origine du nom.
Ah oui,
mille vaches.
Ça vient de là, d'accord.
Bah, attention, il y a autre chose. Hein. Mmh. Origine celte, mille bats. Est souvent avancé, ça renvoie évidemment aux 1000 sources et à l'eau qui est ultra présente, Thierry. Voilà,
parfait.
Vous prenez quoi ? Vous prenez la légende, vous ?
Moi, j'aime bien la première.
Ouais, on est d'accord.
Hein, c'est bien. Bon, la légende de la bergère sans hésitation, justement, ça ressemble à quoi ce plateau de 1000 vaches alors ?
On est au pied des contreforts du massif central. Il faut s'imaginer un plateau verdoyant. Ouais. Ce qui est assez typique, c'est qu'il y a une multitude de petits sentiers et de petits patrimoines bâtis à chaque coin de route. D'ailleurs, dans le sud-ouest du plateau, posé au bout d'une piste forestière, dans une clairière, il y a un village, le village de Cléda. C'est un village abandonné. C'est assez mystique, c'est enchanteur, parce qu'il y a seulement quelques chaumières, des maisons en ruine et une chapelle. Et là, c'est à vous d'inventer la légende.
Parfait. Côté hébergement alors, quelques idées.
Allez, on va rester dans le sud-ouest justement du plateau, au pied donc du massif des Monédières. Ce sont les cabanes de Salagnac. C'est 6 cabanes en bois très design, avec de grandes baies vitrées ouvertes sur le vallon, les collines et ruisseaux. Le terrain de jeu est grand, 40 hectares.
Ouais.
Et puis, si vous êtes plutôt tenté par dormir en bivouac, c'est votre cas, Thierry, j'imagine, avec votre tente, direction la maison du parc, dans la commune donc de Mille Vaches.
Mais c'est parfait, merci beaucoup Vanessa. Marion Sauveur à présent, direction Paris avec vous, Marion.
Et oui, puisque nous sommes à la veille de la Saint-Honorée, le 16 mai. Saint-Honoré qui est donc le patron des boulangers, mais aussi le nom d'une pâtisserie française classique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Saint-Honoré ? De la pâte feuilletée recouverte de crème, par-dessus une couronne de choux caramélisés. On finalise le gâteau avec de la crème chantilly. C'est une gourmandise née au 19e siècle au sein de la pâtisserie Chibouste, située à rue Saint-Honoré.
Je mets une petite serviette autour de
mon cou. Vois vous vous préparez.
Oui.
Donc rue Saint-Honoré, d'où le nom de ce gâteau. Mmh. Une pâtisserie qui a bien évolué avec le temps, comme nous l'explique le pâtissier Sébastien Godard, qui fait honneur à la pâtisserie traditionnelle.
Il était un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, puisqu'il était à base de brioche, avec une crème qui ramollissait la brioche, qui en faisait un gâteau à consommer dans l'instant. Il y a eu différentes époques autour de cette crème. Ça a commencé par de la crème chantilly, de la crème pâtissière. Après, il y a eu la crème chibouste. C'est une crème pâtissière chaude à laquelle on ajoute de la meringue italienne également tiède, qu'on ne fait aujourd'hui plus. À une époque, c'était pour des raisons bactériologiques. On faisait une meringue italienne, c'est-à-dire des blancs d'œufs battus avec un sirop de sucre cuit. Et comme on était à une température qui n'était pas suffisante, on avait un produit qui était un peu dangereux, un peu limite, il y a eu des intoxications.
Et puis la meringue italienne est aussi assez sucrée, ce qui donne une crème chibouste un peu lourde. Ces dernières années, on a tendance à désucrer les desserts. Même Sébastien Godard a mis de côté cette crème. Nous avons d'ailleurs, allez-y Thierry, un Saint-Honoré de chez Sébastien Godard en studio.
Je suis en transe.
Donc pas de crème chibouste, mais une pâte feuilletée recouverte d'une crème diplomate, donc un mélange de crème pâtissière et de crème chantilly, une belle couronne de choux caramélisés, un décor en chantilly réalisé bien sûr avec ce qu'on appelle en pâtisserie la douille Saint-Honoré. Vous en avez plein la bouche.
Marion, si on veut réaliser un Saint-Honoré à la maison, comment on s'y prend ?
Alors c'est une pâtisserie quand même assez technique.
Oui, hein, bah ouais.
Donc allez chez vos pâtissiers,
c'est bon, hein.
Déguster des vrais Saint-Honoré. Je vais vous proposer aujourd'hui un Saint-Honoré très simplifié. Avec une bonne pâte feuilletée beurrée que vous demandez justement à votre boulanger par exemple, ou dans le commerce on en trouve des délicieuses. L'idée ça va être de réaliser une couronne de choux et la chantilly. Donc on va commencer par lancer la cuisson de la pâte feuilletée. Pour les choux on va réaliser une pâte à choux. On commence par monter à ébullition l'eau, le lait, le sucre et le beurre. Quand le mélange frémit comme ça, on ajoute la farine, on mélange bien, on dessèche la pâte et on va laisser refroidir quelques minutes avant d'ajouter les œufs. Quand la pâte est bien lisse, direction la poche à douille, on réalise une couronne de la taille de la pâte feuilletée. On dore la couronne au pinceau. On parsème allez, quelques amandes effilées, direction le four. On prépare cette fois notre crème chantilly avec un peu de vanille et du sucre. Et quand la couronne de choux, la pâte feuilletée sont froides, on garnit ce gâteau de chantilly et on mange sans attendre.
Ah oui, on mange sans attendre. Je suis d'accord. Merci Marion. On retrouve votre recette sur europe1.fr. En fait, ma petite part, s'il vous plaît.
Avec plaisir.
Votre recette sur europe1.fr et le podcast des balades sous le nom Week-end Évasion. Bonne semaine.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Bon réveil sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il est 7h.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'information avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Lors de la démission approche pour Jean Castex, Arthur Delaborde nous dira qui tient la corde pour le remplacer. Un indice, Emmanuel Macron veut une femme.
Nous en parlons de cette actualité politique également juste après ce journal avec mon invité Gérard Collomb, l'ex-maire de Lyon, et son message à Emmanuel Macron ce matin sur Europe 1.
Nous parlerons de l'Ukraine également. Kiev est optimiste sur une sortie de crise. La Russie pense l'inverse. L'Ukraine qui a reçu un fort message de l'Europe hier en gagnant l'Eurovision. Un symbole certes, mais une lueur d'espoir pour tout un peuple après 80 jours de guerre.
Dans la prochaine demi-heure, nous retrouverons bien sûr Mathieu Alter vers 7h23. Il reviendra sur les histoires les plus improbables du Festival de Cannes qui débute mardi. Mais avant cela, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
6 départements sont déjà en vigilance orange orage. Normandie et Sarthe, le ciel est plutôt sec et beau ailleurs.
Météo complète dans 7 minutes. Et ce n'est plus qu'une question d'heure. Jean Castex s'apprête à présenter sa démission à Emmanuel Macron.
Et les paris vont bon train pour savoir qui va lui succéder à Matignon. Emmanuel Macron souhaite une femme. Oui, mais laquelle ? Arthur Delaborde, le chef de l'État, a plusieurs noms en tête.
Eh bien, ces derniers jours, Emmanuel Macron semblait s'orienter vers un profil, une femme de centre-gauche, avec trois noms fréquemment cités. Audrey Azoulay, actuelle secrétaire générale de l'UNESCO, Marisol Touraine, ancienne ministre des Affaires sociales de François Hollande, et puis Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail. Mais désormais, c'est le nom d'une femme de droite qui ressort de plus en plus, celui de Catherine Vautrin. Cette proche de Jean-François Copé avait rallié Emmanuel Macron en février dernier. Présidente du Grand Reims, elle a été ministre sous les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, puis de Dominique de Villepin. Elle a aussi été députée Les Républicains de 2007 à 2017 et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Catherine Vautrin incarne la province. C'est en quelque sorte Jean Castex en femme, s'amuse un cadre de la majorité. L'hypothèse de sa nomination étonne en tout cas de nombreux macronistes. Il relève surtout son absence totale de fibre écologique et son opposition au mariage pour tous en 2013.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron qui n'est pas le seul à souhaiter une femme à Matignon. 74% des Français sont pour, nous dit le JDD ce matin.
Et on en parlera avec la une du JDD à 7h40. Jean Castex, lui, n'ira pas au Vatican. Son dernier déplacement comme Premier ministre lui file donc entre les doigts.
C'est protocolaire, il n'a pas le droit de quitter le pays en même temps qu'Emmanuel Macron, qui lui se rend très tôt ce matin aux Émirats Arabes Unis, endeuillés par la mort de leur président. Hier soir, le frère Mohamed Ben Zayed a été d'ailleurs élu président. Il dirige le pays depuis 2014. Et pour Qatar, Abu Dhabi, Diad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, la France a tout intérêt à conserver ses bonnes relations avec le nouveau président du pays.
C'est l'homme qui a osé une normalisation avec Israël. C'est l'homme qui a des liens spéciaux avec la France depuis longtemps, mais aussi avec les États-Unis et la Russie en même temps, et la Chine. C'est un personnage clé dans cette zone du monde qui représente donc un atout pour la diplomatie française.
Qatar Abou Diad, politologue spécialiste du Moyen-Orient, au micro Europe 1 de Guillaume Dominguez.
L'actualité à l'étranger, c'est ce dimanche que la Finlande dépose formellement sa demande d'adhésion à l'OTAN.
C'est une requête qui crée des tensions avec la Russie puisqu'elle met fin à la neutralité militaire du pays. La Turquie se dit prête depuis hier soir à discuter avec la Finlande sur cette candidature. La Finlande qui se déclare confiante également.
Et optimiste affiché également pour les autorités ukrainiennes après 80 jours de guerre.
Oui. Kiev annonce avoir repoussé l'offensive dans l'est du pays. Le chef du renseignement militaire ukrainien prédit même que son pays gagnera la guerre avant la fin de l'année. La réaction n'a pas traîné côté russe. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare lui qu'il est difficile de prévoir combien de temps durera cette guerre, je cite, « hybride totale » entre la Russie et l'Occident.
Bien sûr, notre pays change en fonction des circonstances et tire ses propres conclusions. Le choix que nous faisons, en réalité, que nous avons déjà fait, est expliqué par l'Occident qui nous a déclaré une guerre hybride et totale. C'est difficile de prédire combien de temps ça va durer, mais il est clair que les conséquences se feront ressentir par tout le monde, sans exception.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Merci de soutenir l'Ukraine.
Slava Ukraine !
Vive l'Ukraine !
Voilà, et au milieu de la guerre, eh bien, un instant pour penser à la paix.
Oui, aider l'Ukraine, sauver Mariupol. Voici les mots de ce groupe Kalouche Orchestra qui a remporté l'Eurovision hier soir. Une victoire symbolique, une victoire géopolitique. Notre courage impressionne le monde, a immédiatement inscrit sur Twitter Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui d'ailleurs dit vouloir accueillir la prochaine édition dans la ville de Mariupol l'année prochaine. Ville libre, pacifique et reconstruite.
Dans le reste de l'actualité, Lénaïque, à partir de demain, vous pourrez enfin faire tomber le masque dans les transports en commun.
Et c'est la première fois depuis 2 ans. Le bus, le métro, le train, l'avion, le taxi, plus d'obligation nulle part. C'est l'une des dernières grandes restrictions anti-Covid qui disparaît. Mais la pandémie, elle, n'est pas terminée. Voilà sur quoi insiste le gouvernement. Le port du masque reste donc pour certains recommandé.
Allez les sports, pas de masque, mais bien des casques pour le Grand Prix de France moto au Mans cet après-midi.
Et pour la toute première fois de l'histoire, le public du circuit Bugatti verra un champion du monde de MotoGP français, c'est Fabio Quartararo. Axel May.
Les organisateurs du Grand Prix de France n'en espéraient pas tant. Après 2 ans de pandémie, la foule est de retour et surtout, pour la première fois de l'histoire, un pilote tricolore va prendre le départ du Grand Prix de France cet après-midi dans la combinaison du champion du monde de MotoGP, Fabio Quartararo, en salive sous son casque.
J'espère que ça va être spectaculaire parce que c'est ce qu'attendent les fans depuis très longtemps, un champion du monde français en MotoGP. Donc je pense pas que ça soit une pression supplémentaire, mais plus une motivation et une envie de vivre ça.
Leader du championnat, mais avec une moto japonaise qui manque de puissance cette saison, Fabio Quartararo sait qu'il n'aura pas la tâche facile sur le circuit du Mans pour devenir le premier français à s'y imposer dans la catégorie reine. El Diablo, le surnom du pilote niçois, s'élancera en deuxième ligne aux côtés de son compatriote Johan Zarco devant un public prêt à vrombir de plaisir.
Axel May pour Europe 1. La Ligue 1, une journée de la fin. L'OM perd gros dans la course à la Ligue des Champions après sa défaite à Rennes, alors que Monaco passe juste devant grâce à son succès contre Brest. Et puis en bas de tableau, Bordeaux est quasiment condamné à descendre en Ligue 2. Saint-Etienne est relégable ce matin.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Valérie Darmon, on parlait à l'instant du circuit du Mans avec le Grand Prix moto cet après-midi. Sale temps sur le Mans.
Ah, sale temps, il va pleuvoir beaucoup, il va faire 26 degrés aussi, donc de gros orages, hein. C'est normal, c'est la région qui est touchée par les orages. On a déjà la Sarthe, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche qui sont en alerte orange orage à partir de 15h et jusqu'à 21h. Donc la masse d'air est instable, de plus en plus instable et orageuse. Prudence si vous êtes sur ces régions de l'Ouest, si vous circulez sur ces régions de l'Ouest surtout. Ces orages peuvent se montrer localement virulents, accompagnés d'une importante activité électrique, de chutes de grêle. À l'Est, aucun risque d'orage sauf sur les reliefs et puis rien à voir avec cette situation sur la façade Ouest. Ces orages qui circulent donc très rapidement à partir du début d'après-midi en remontant vers les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie. Et puis sur la région parisienne ce soir aussi, les vigilances qui ne vont pas cesser d'évoluer d'ailleurs jusqu'à demain matin. Ce sera demain que la situation se calmera.
On regarde les températures, ça grimpe.
Oui, avec des nouvelles de nos auditeurs ce matin. Véronique qui fait une brocante nous dit qu'il fait 16 degrés à Blois, 17 en Mayenne pour Jean-Yves. Et cet après-midi, des maximales entre 22 à Nice et Dunkerque et 33 à Auxerre. 24 annoncés à Saint-Brieuc, 25 à Embrun et à Marseille, 26 à Carcassonne et à Rodez, 28 à Verdun, à Clermont-Ferrand et à Amiens, 29 à Lyon, 30 degrés à Paris, à Châteauroux et à Reims, 31 à Angoulême et à Brive-la-Gaillarde.
Merci très chère Valérie, à tout à l'heure, rendez-vous à 7h30 bien sûr. Allez, restez avec nous, hein, mon invité dans un instant, l'ex-maire de Lyon, ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Alors que débute le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, quelques messages qu'il souhaite adresser au président. Et visiblement, il en a pas mal. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview actu de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Ancien ministre de l'Intérieur, bien sûr, ancien maire de Lyon, l'un des inventeurs, on va dire, du macronisme. Ce dimanche matin, c'est le deuxième jour du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ce soir, sans doute, ou demain matin, devrait être nommé le ou la nouvelle Premier ministre. Quel est le bon profil, selon vous, pour travailler avec le président dans ce moment particulier où l'attente des Français, on le sait, est très très forte ?
Je pense qu'il faut un Premier ministre fort parce que le président de la République, comme vous le savez, a une forte personnalité lui-même. Et donc, il faut être capable de mettre en application, de faire passer dans la réalité ce qu'il peut avoir comme idée. Et des idées, il en a souvent beaucoup. Et peut-être de réguler justement ce flot des idées.
Réguler le flot d'idées, ça veut dire tenir tête également, exister par rapport au président ?
Oui, surtout qu'on va être dans une situation extrêmement compliquée. Tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un retournement de la situation économique et que l'environnement économique est en train de se dégrader avec évidemment la guerre en Ukraine, avec le Covid en Chine. Et on voit les pénuries à la fois dans le domaine alimentaire, sur les problèmes de matières premières, les semi-conducteurs. Donc aujourd'hui, alors qu'on était en pensait qu'on allait être en plein boom après la sortie du Covid, c'est plutôt des circonstances difficiles. L'inflation qui recommence, les banques centrales qui vont avoir des politiques moins accommodantes. Donc ça va être extrêmement compliqué face aux attentes justement des Français.
Gérard Collomb, je rebondis sur ce que vous me disiez il y a quelques secondes. Est-ce que dire la vérité au président, c'est compliqué ? Est-ce que remonter le ressenti du pays, c'est compliqué ? C'est ce qui a causé votre départ du gouvernement ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Emmanuel Macron ce matin ? Écoute surtout le pays pour ce deuxième mandat.
Si vous voulez qu'effectivement il faut dans le deuxième mandat affronter totalement la réalité et qu'on ne peut plus être comme peut-être il l'a été dans le en même temps. Il faut surtout, compte tenu des circonstances difficiles que j'évoque, fixer une ligne et s'y tenir tout le temps, ne pas être dans une injonction, puis dans l'injonction contradictoire, parce que c'est à partir de là que les Français peuvent perdre le fil du récit.
On le disait cette semaine sur Europe 1, le président prévoit un Big Bang dans son cabinet, mais également dans les directions d'administration centrale. Est-ce qu'il faut revoir, selon vous, tout le fonctionnement de la direction de l'État ?
Moi, je ne suis pas aussi sévère, si vous voulez. Je vois que, pour avoir travaillé avec les administrations centrales au ministère de l'Intérieur, avec les préfets, que nous avons plutôt une bonne administration. Non, ce qui, à mon avis, pose problème, c'est plutôt le niveau intermédiaire, ce qui peut exister au niveau de quelques cabinets, puis autour du président de la République, les visiteurs du soir, qui, par rapport à la politique menée par les ministres, peuvent dire exactement exactement le contraire. Et donc, du coup, on sent un certain flou dans l'engagement du président sur telle ou telle direction.
La situation est quand même étrange. Emmanuel Macron a été largement réélu. Mais il n'y a pas d'état de grâce, il n'y a pas d'euphorie, on va dire, comme en 1988, lorsque Mitterrand a été réélu. Pourquoi ?
Parce que, si vous voulez, on voit bien qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a trois forces qui sont à peu près égales. On l'a vu pour le premier tour des présidentielles, et on le voit sur ces législatives. Il y a le bloc central qui est représenté par le président de la République et sa majorité. Il y a le bloc Le Pen, c'est on va dire l'ensemble des gens qui se sentent totalement oubliés. C'est la France rurale, c'est la France périphérique, c'est la France on va dire européenne qui se sent menacée par l'immigration. Puis de l'autre côté, vous avez le bloc Mélenchon, alors qu'est lui un bloc extrêmement composite. Je voyais que la fondation Jean Jaurès parlait d'archipel où vous avez des gens à la fois des jeunes qui sont sensibles à la fois à l'écologie mais en même temps à l'antiracisme, au féminisme, etc. Et puis de l'autre côté, l'électorat musulman qui s'est fortement mobilisé dans les banlieues puisqu'on voyait dans les sondages qui ont été faits après coup que 69% des musulmans en France avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon.
C'est intéressant ce que vous me dites. Est-ce que vous vous sentez fautif ? Je disais, vous avez été du premier cercle. On se souvient de vos larmes lors de la cérémonie d'investiture en 2017. Oui. On a le sentiment que le macronisme que vous avez créé a radicalisé la vie politique. Il y a, comme vous le dites, la gauche radicale contre la droite extrême. Est-ce que vous avez raté quelque chose ?
Oui, je pense que de ce point de vue-là, on voulait aller vers une France apaisée et jamais la France n'a été aussi divisée qu'aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, il y a un vrai problème. Alors pourquoi ? Sans doute avons-nous réussi sur la politique économique parce qu'on voit bien que avant le Covid, il y a eu des créations d'emplois extrêmement fortes, que jusqu'à la crise que l'on connaît, mais pour des raisons extérieures, comme je le disais, l'Ukraine, la Chine, etc., il y avait plutôt des créations d'emplois. Mais d'un point de vue sociétal, la fragmentation de la société française s'est accrue. Et qu'en particulier, le problème des banlieues, c'est ce qui explique le vote dont je parlais à l'instant, n'a pas été résolu. Et donc, qu'il y a un certain nombre de gens que cette situation angoisse, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs.
N'a pas été résolu, vous dites, le problème des banlieues, ça veut dire que vous condamnez l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes ?
Non, ça veut dire, si vous voulez, que, par exemple, sur les problèmes d'immigration, on aurait pu aller plus loin. Que, vous voyez, quand vous avez à peu près 120 000 personnes qui font des demandes d'asile, qu'il y en a 100 000 pour des raisons diverses qui restent en France, et que dans le même temps, vous construisez 80 000 logements sociaux, vous apercevez qu'il y a forcément un problème, qu'il y en a 20 000 qui vont où ? Ben, on n'en sait trop rien, donc vous avez une société qui se délite. Quand, par exemple, en Seine-Saint-Denis, le préfet de l'époque vous dit qu'il ne sait même pas combien il y a d'habitants en Seine-Saint-Denis, tellement il y a effectivement de gens qui sont hors la légalité, ça pose de vrais problèmes. Et moi, si à un moment donné, j'ai démissionné, c'est parce que ces problèmes, je pensais qu'ils n'étaient pas traités aussi profondément que je le souhaitais.
Gérard Collomb, est-ce que vous reparlez à Emmanuel Macron ?
Oui, ça m'est arrivé. Il m'a même, comme vous le savez, remis l'ordre de la Légion d'honneur comme officier. Mais en même temps, je vois bien que lorsqu'il désigne des candidats, il paraît-il qu'il regarde chaque circonscription dans le Rhône, sur Lyon en particulier. Il désigne des candidats qui se sont opposés à moi au cours des dernières années, des dernières municipales. Donc je me dis que quelque part, là aussi, on est dans le « en même temps ». Il y a peut-être des contradictions qui se voient dans un certain nombre d'autres circonscriptions à travers la France.
Ce matin, sur Europe 1, vous auriez envie de lui dire quoi, juste avant de nommer ce nouveau Premier ministre et ce nouveau gouvernement ?
J'aurais envie de lui dire que dans ce second mandat, soit il rentre dans l'histoire, parce qu'on a un moment de l'histoire qui est un moment particulier avec ce risque de guerre généralisée, avec cette panne de l'Europe dont on voit bien qu'aujourd'hui elle ne pèse pas ni technologiquement, ni économiquement, ni militairement. Soit il rentre dans l'histoire parce qu'il est capable de pouvoir unir l'Europe, de pouvoir unir la France, soit effectivement on aura été dans des victoires tactiques, mais sur le fond, on n'aura pas changé le pays, changé l'Europe et changé le monde.
Nouveau Premier ministre, a priori ce soir ou demain matin, l'ancien ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon, Gérard Collomb, sur Europe 1 ce matin depuis Lyon. Merci à vous, bon dimanche.
Merci à vous, bon dimanche aussi.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h20, l'Info Express, Léna Ekmonier.
Une double note d'espoir pour les Ukrainiens qui ont remporté hier soir l'Eurovision et qui espèrent accueillir l'an prochain le concours dans un pays pacifié. Alors que la Russie est entrée en Ukraine il y a 80 jours à présent, les autorités affirment avoir repoussé l'offensive dans l'est du pays et le chef du renseignement militaire prédit que son pays gagnera la guerre avant la fin de l'année. Une femme sera-t-elle à Matignon ce soir? Le nom de la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, ex-LR, revient avec insistance pour le poste de Premier ministre. En tout cas, Emmanuel Macron souhaite voir une femme diriger le prochain gouvernement. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. 74% des Français sont pour, nous dit ce matin le JDD. Jean Castex, qui lui sera privé de son dernier déplacement en tant que Premier ministre, il ne peut pas quitter le pays en même temps qu'Emmanuel Macron, qui est en route pour les Émirats Arabes Unis, endeuillé par la mort de leur président. En Ligue 1, c'était l'avant-dernière journée et c'est une journée qui a rebattu les cartes dans la course au maintien. Metz a chippé la place de barragiste à Saint-Etienne et Bordeaux est quasiment condamné à descendre en Ligue 2 après son match nul 0-0. C'était contre Lorient.
Merci Léna, on donne bien sûr rendez-vous à 9h.
À tout à l'heure.
Dans un instant, Mathieu Alterman, on va parler du Festival de Cannes qui débute mardi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Pour l'ensemble de sa carrière, pour son amour du vintage et des archives, je lui décerne la palme d'or. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin Mathieu, vous nous parlez du Festival de Cannes, bien sûr, qui débute mardi, et de ses anecdotes improbables.
Ça vous plaît ça? C'est bien une madeleine. Oui. Le Festival de Cannes débute donc mardi pour se terminer samedi 28. Alors quelques chiffres pour mesurer son ampleur. Sont attendus 4200 journalistes, 1250 journaux, 1400 chaînes de TV, 400 photographes, 800 sites web, 350 radios, des influenceuses, des stars, enfin bon bref. Il est vrai que cette débauche de moyens sur le tapis rouge de Festival de Cannes courvêtu est parfois moquée quand au final le film gagnant nous narre le tragique désespoir d'un agriculteur kurde qui a tout perdu après l'incendie de ses terres dans un hiver teinté de brouillard épais et la perte de sa femme du choléra après des mois d'agonie, le tout pendant 3h22.
Ah, je l'ai vu ce film et vous pensez quand même, vous passez quand même sous silence son grand souffle épique.
Mais j'allais le dire Thierry, ouais. Cependant petit problème, hein, depuis 20 ans, ouais. Seuls 5 lauréats de la Palme ont dépassé le million d'entrées en France.
Ah, ouais.
Mais Cannes finalement c'est aussi le mélange des genres et c'est ce que je préfère. Ainsi en 1976...
A tous quelque chose en nous de Tennessee.
Le légendaire dramaturge et écrivain américain Tennessee Williams est interviewé par, tenez-vous bien, Daniel Gilbert dans Midi Première, juste après la chanson Perlimpinpin de Patrick Topalov. Je vous jure que c'est vrai. En 1992, il y a pile 30 ans, c'est à Cannes que fut révélée Sharon Stone lors de la projection de Basic Instinct, véritable phénomène de société qui dépassa tout de même le cadre du cinéma d'auteur. Alors, autre activité cannoise, ce sont aussi des jurys qui se fâchent, mais ne peuvent rien montrer devant les caméras.
Vraiment, il y a des bagarres entre célébrités sur les choix des prix?
Bah écoutez, en 1979, la présidente du jury, Françoise Sagan, demeure totalement hermétique face à Apocalypse Now et ne jure que par le tambour. Contente du tout, Françoise, elle fait ses valises si le tambour ne remporte pas la Palme d'Or et donne tout compte fait son accord pour un ex-aequo entre les deux films. 7 mois plus tard, dans une interview, elle dénonce l'accord, mais la révélation par le festival des notes de frais faramineuses de l'auteur et le triomphe du film de Coppola la replongeront dans le silence. Alors, autre grosse ambiance, hein. Ouais. En 1997, Isabelle Adjani est présidente du jury avec un management, nous allons dire, un soupçon autoritaire. Alors, elle dirige l'emploi du temps de ses collègues, les oblige à assister aux séances du matin et à suivre son régime alimentaire.
Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral à zéro.
Alors, le résultat, elle déclenche une fronde au sein des votants et se retrouve dans l'impossibilité absolue d'imposer son choix pour la Palme.
Et Mathieu, le festival connut également des incidents en direct pendant la remise des prix.
Oui, telle Sophie Marceau en 1999, visiblement pas très à l'aise dans un discours qui évoque Kabour, les enfants malades, la guerre, que la très élégante maîtresse de cérémonie Christine Scott Thomas viendra interrompre brutalement pour cesser les sifflets et rires de l'assistance. Have you learned your text? J'ai pas eu le temps, monsieur. Pour les connaisseurs, c'était bien entendu Sophie Marceau et François Valéry. On se souvient encore de Maurice Pialat, hué en 1987 lors de la remise de sa palme pour Sous le soleil de Satan, et qui, point tendu, déclame « Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ». On se souvient également de Quentin Tarantino, sifflé lors de sa récompense pour Pulp Fiction, ou encore l'année dernière de la gaffe de Spike Lee annonçant le résultat de la palme par erreur en début de cérémonie. Mais ce qui compte plus que tout, Thierry, ce sont les grands moments d'émotion et la fierté d'avoir un festival en France où toutes les légendes sont venus nous apporter un peu d'éternité et de grâce. Chacun pour soi est reparti
dans le tourbillon de la vie. Ah, le tourbillon de la vie par Vanessa Paradis devant Jeanne Moreau. C'était en 1995. Beau moment, en effet. Bon dimanche, Mathieu.
Bon dimanche. Ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant. L'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en chantant. Des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus. On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés. Puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai vu un soir, ah là là. Elle est retombée dans mes bras. Elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer?
Un moment magique du Festival de Cannes, Jeanne Moreau avec Vanessa Paradis. Allez, dans deux minutes, le journal de 7h30, Ligue 1, Ligue 2, ça va bouger en cette fin de championnat de foot. La fin du port du masque dans les transports, c'est pour demain. Et puis, le burkini à Grenoble, c'est en discussion demain en conseil municipal. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Et vous participez à cette matinale sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook Europe Matin Week-end. Il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. La liesse hier soir à Ajaccio pour la remontée en Ligue 1 de l'ACA. Reportage au cœur d'une fête bien légitime. Ça faisait 8 ans que les Ajacciens attendaient ça.
Dans ce journal, retour sur la vie de Charles de Foucault, l'ermite du désert qui sera proclamé saint par le pape aujourd'hui.
Et puis nous évoquerons aussi la polémique du burkini. Demain, le conseil municipal écologiste de Grenoble va décider de l'autoriser ou non dans les piscines.
Dans votre prochaine demi-heure, la une du JDD. Pourquoi Macron veut une femme à Matignon? Et puis à 8h moins le quart, ça vous concerne. Ce matin, que faire des jours de congé que l'on n'a pas pu prendre au boulot? Mais tout de suite, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien, le temps qui s'annonce lourd et orageux sur une grande moitié est de l'ouest de la France. Normandie et Sarthe sont d'ailleurs en alerte orange orage dès 15h. À l'inverse, il fait beau à l'est, excepté des orages en après-midi seulement sur vos reliefs.
Le détail météo dans un instant.
Europe 1.
8 ans après, Ajaccio remonte en Ligue 1.
Oui, grâce à la victoire décrochée hier soir à domicile face à Toulouse. 1-0, c'était la dernière journée de la Ligue 2. La liesse, évidemment, au stade François Coty où il y avait 8000 personnes. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europa en Corse.
Dès le coup de sifflet final, des dizaines puis des centaines de supporters qui envahissent joyeusement la pelouse. 8 ans qu'ils attendaient ça. Dans les entrailles du stade, même euphorie, tout le monde s'embrasse, s'enlace. Le président Christian Leca est au bord des larmes.
C'est indescriptible. J'ai une joie, une fierté pour tout le club, pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde. C'est extraordinaire.
Ajaccio, petit budget de Ligue 2, club modeste et qui se revendique comme tel, avec comme symbole un entraîneur local attachant qui a tout connu depuis 40 ans et qui pourtant n'en revient pas. Olivier Pantaloni.
On est un petit club, on travaille dans les bureaux. Au plus, on est 8 ou 10 tous les jours. C'était pas pensable en début de saison. Et malgré tout, avec ces petits moyens, on a réussi à le faire.
Avec Ajaccio, c'est la Corse qui revient en Ligue 1 et avec elle certaines vertus que souhaite à rappeler le directeur sportif et légende de la CA, Johan Cavalli.
Beaucoup décrit notre sport parce que la société tourne un petit peu en ce moment et du mauvais côté. Mais on peut voir qu'on reste encore un sport où les valeurs peuvent faire beaucoup de choses contre l'argent.
Les concerts de klaxon ont duré une bonne partie de la nuit et ce n'est pas fini. Cet après-midi, le défilé des joueurs promet d'embraser une nouvelle fois la ville de Napoléon.
Voilà, Ajaccio et Toulouse remontent dans l'élite. Auxerre est troisième et sera donc barragiste face au 17e de Ligue 1, soit Metz, soit Saint-Etienne. Soit, mais c'est tout à fait hypothétique, les Girondins de Bordeaux.
Emmanuel Macron attendu ce matin aux Émirats Arabes Unis.
Le président rend hommage à son homologue défunt, le cher Khalifa, décédé vendredi. Conséquence de ce déplacement décidé hier, Jean Castex, toujours Premier ministre, n'ira pas au Vatican. Il faut toujours qu'il y ait au moins un des deux membres de l'exécutif présent dans l'Hexagone. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui représentera la France pour les canonisations de 3 Français, dont celle de Charles de Foucault, Antonino Gallofaro.
Oui, l'ermite du désert, l'apôtre des Touaregs est proclamé saint aujourd'hui. Il aura fallu près d'un siècle pour arriver à cette canonisation. Le procès en béatification a commencé dans les années 20 et il a été déclaré bienheureux en 2005 par Benoît XVI. Le processus a donc été long, notamment à cause de la figure même de Charles de Foucault. Comme l'explique le Vatican lui-même, alors qu'il est né dans une famille très chrétienne de Strasbourg, il se laisse gagner par le scepticisme religieux qui marque son époque. Il se plonge ensuite dans une vie mondaine, toujours à la recherche du plaisir. C'est la découverte de l'islam qui lui permet de redécouvrir la foi chrétienne. Il se convertit, devient moine trappiste, puis voyage au début du siècle dernier entre la Syrie, la Terre Sainte et enfin l'Algérie. Pas de prosélytisme, comme il le dit lui-même. « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. » Il sera assassiné ensuite en 1916. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
Et deux autres Français proclamés saints également, Marie Rivier et César de Bus. L'actualité à l'étranger, pour renforcer sa sécurité face à son voisin la Russie, la Finlande va officiellement demander l'adhésion à l'OTAN aujourd'hui. Le président finlandais a prévenu son homologue russe hier. Vladimir Poutine lui a signifié qu'il faisait une erreur. Et puis une nouvelle tuerie hier aux États-Unis, un jeune blanc de 18 ans lourdement armé a fait 10 morts, majoritairement des Afro-Américains, dans un supermarché de Buffalo. Le FBI enquête sur un crime raciste.
Retour en France, Raphaël. Demain, le masque dans les transports, eh bien, c'est terminé.
Oui, les contaminations baissent. Près de 40 000 nouveaux cas de Covid par jour. La pression hospitalière diminue également. Moins de 1500 patients en réanimation. Pour l'infectiologue Antoine Flahaut, cet allègement est cohérent, mais ne peut pas signifier la fin du masque pour toujours.
Elle est cohérente avec une sorte de condition ou de réserve, une double condition. La première condition, c'est de se dire, mais si jamais ça remonte, et ça peut remonter rapidement, malheureusement, comme on le voit au Portugal, mais aussi dans d'autres endroits, aux États-Unis aussi, il faut à ce moment-là être prêt à, malheureusement, réinstaurer ce type de mesures. Et puis, la deuxième condition, c'est que les autorités sanitaires en profitent pour déclencher un grand plan ventilation, c'est-à-dire d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. À mon avis, c'est l'urgence des urgences. On veut éviter que revienne, avec un rythme presque de tous les 6 mois, une nouvelle vague. Il faut véritablement qu'on puisse améliorer la qualité de l'air intérieur, car c'est là où se produisent 95 à 99% des contaminations dans cette pandémie.
L'infectiologue Antoine Flahaut.
La politique, demain, le conseil municipal de Grenoble va voter l'autorisation ou non du port du burkini à la piscine.
Oui, car le maire écologiste Éric Piolle est contesté jusqu'au sein de sa majorité. Pour lui, cette mesure consacre la liberté de choix des femmes. Pour ses opposants, elle consacre la soumission de la femme. Mais qu'en pensent les principales intéressées ? Jean-Luc Boujon leur a demandé à Grenoble.
Premier constat, beaucoup de ces femmes sont loin des débats enflammés qui agitent la sphère politique. Pas question pour elles d'en faire un combat de civilisation, même si le sujet est tout de même important à leurs yeux. Par exemple, le burkini permettrait enfin à Olfa d'accompagner ses enfants à la piscine, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Comme c'est interdit, franchement, il y a des enfants qui ne peuvent pas y aller à la piscine parce que leur maman, elle ne peut pas aller avec eux. Je peux surveiller les enfants dans les vestiaires, en fait, mais pas dans l'eau.
C'est utile, donc.
Oui, c'est une bonne chose.
Sabrina a 17 ans, elle aussi portera le burkini à la piscine s'il est autorisé, au nom de sa liberté de jeune femme.
On est libre, on est en France, c'est la liberté, quoi. Et le burkini, c'est important dans notre religion. J'ai entendu parler comme quoi c'est l'homme qui lui impose ça, alors que pas du tout, ça sera mon choix à moi.
Reste que beaucoup de femmes musulmanes, surtout celles de 30 ou 40 ans, n'en voient pas l'utilité. C'est un mauvais combat pour Sarah et Chérifa.
Moi, les burkinis, je suis contre. Pour les burkinis, je trouve ça vulgaire, en fait. C'est très moulant. Ça fait encore des histoires pour rien, en fait. Je trouve que ça va pas dans notre sens. S'ils ont décidé de mettre le foulard, ils ont rien à faire dans les piscines municipales. Voilà.
Moi, je suis de religion musulmane. On est dans un pays européen. On s'adapte.
Et ces femmes de conclure, on doit respecter les règles en vigueur autour de nous. Et franchement, l'été, on est quand même mieux en maillot de bain. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui sera votre invité tout à l'heure dans Europe Midi. Thierry.
Exactement.
Toujours pas de successeur à Marie Mariam, la dernière Française à avoir remporté l'Eurovision en
1977.
Absolument, avec L'Oiseau et l'Enfant. Eh bien, Alvan et Aez avec Fulène n'ont pas réussi donc à succéder à Marie Mariam hier. Ils ont fini 24e et avant-dernier lors du concours de l'Eurovision, brillamment remporté par l'Ukraine.
Et c'était le journal de Raphaël Delvolvé. Merci beaucoup Raphaël, à tout à l'heure. Le temps de votre dimanche, Valérie Darmon, des orages aujourd'hui.
Effectivement, avec déjà la Normandie et la Sarthe qui sont en alerte orange orage dès 15h jusqu'à 21h au moins. Cette vigilance qui va évoluer tout au long de la journée. Puisque de la Manche jusqu'à l'ouest des Pyrénées, il faut s'attendre à une journée très agitée. Avec un ciel bien nuageux, des averses orageuses, la menace orageuse qui concerne ce matin la Normandie, et puis ensuite toute l'Aquitaine en début d'après-midi, et puis en fin de journée la région parisienne, l'ouest de la Bourgogne, la Champagne, les Hauts-de-France, ainsi qu'en Occitanie, et puis le Massif central, les orages qui circulent, qui sont assez forts, accompagnés de grêles, avec des rafales soufflant jusqu'à 100 km/h, tandis qu'à l'est, vous êtes tranquille, sauf sur les reliefs en proie à des orages, mais rien à voir avec la situation sur la façade ouest.
Et Valérie, on se retrouve bien sûr dans quelques minutes avec Roland Pérez. Et votre dossier, on parle de quoi ce matin ?
On parle de l'obligation de solder nos congés payés.
A tout de suite. Mais d'abord à 7h39, la une du JDD avec son directeur adjoint de la rédaction. Bonjour Pascal Sceau.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin, à la une du JDD, pourquoi Macron veut une femme à Matignon ?
L'attente se poursuit pour au moins encore quelques heures. Le choix d'Emmanuel Macron se fait toujours attendre, mais les Français, eux, savent déjà. Selon notre sondage, ils veulent une femme Premier ministre. 74% d'entre eux se prononcent en ce sens. Difficile pour le président de la République de ne pas entendre. D'autant qu'à en croire l'étude de l'IFOP que nous publions dans le journal du dimanche, les hommes sont aussi nombreux que les femmes à défendre cette solution. Chez les jeunes, la proportion de convaincus est encore plus forte. Marisol Touraine, Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, nous nous sommes penchés sur les profils de celles dont le nom a été cité lors des derniers jours, tout en sachant combien. Il est périlleux de se livrer à des pronostics avec Emmanuel Macron qui n'aime rien moins que surprendre.
Il n'existe qu'un seul précédent dans l'histoire de la République, celui d'Edith Cresson, nommé en 1991 par François Mitterrand.
Justement, Edith Cresson revient sur cette expérience dans le journal. Elle rappelle les attaques sexistes dont elle a été la cible pendant son séjour à Matignon et affirme qu'elle n'avait pas connu les mêmes mots, M-A-U-X, lorsqu'elle était ministre, sauf lorsqu'elle était en charge de l'agriculture. Pour elle, le problème ne vient pas des Français, qui n'ont aucune réticence à voir une femme à la tête du gouvernement, pas plus hier qu'aujourd'hui. C'est le machisme de la classe politique qu'elle dénonce. Elle y voit l'origine d'un terrible blocage. Un président qui nomme une femme à Matignon prend un risque. Des pays voisins aussi importants que l'Allemagne, avec Angela Merkel, ou le Royaume-Uni, avec Margaret Thatcher ou Theresa May, ont depuis longtemps dépassé ce conservatisme retardataire.
Et puis il y a eu cette photo pour présenter la nouvelle formation d'Union de la majorité baptisée Ensemble. On y voyait Stanislas Guérini, François Bayrou, Édouard Philippe et Richard Ferrand.
Cette image a exaspéré le président, a raconté son entourage au JDD. C'était un signe suffisant pour discréditer les efforts de parité entrepris lors du premier quinquennat. Comment concilier toutes les contraintes, celles d'un chef de gouvernement expert de la question écologique et qui répond aux attentes des Français qui souhaitent une femme à Matignon ? La seule chose que l'on peut dire, c'est que la réponse à cette difficile question ne devrait plus tarder.
Merci Pascal Sceau, directeur adjoint de la rédaction du JDD. À la une de vos quotidiens ce matin, l'Eurovision, un concours sous le signe de l'Ukraine, titre Ouest-France. Le groupe breton qui a représenté la France est arrivé en avant-dernière position hier soir. À la une du Parisien aujourd'hui en France, ce dimanche, Tahabouaf, l'affaire qui perturbe la campagne des Insoumis. Il était pressenti, vous le savez, pour être candidat à Vénissieux, mais il a jeté l'éponge. Trois femmes l'accusent de harcèlement et de violences sexuelles. Le foot à la une de la Provence, l'OM craque, but battu 2-0 par Rennes hier soir. Les Marseillais ont perdu gros doublé par Monaco au classement. Le foot, bien sûr, en une de l'équipe Dingo jusqu'au bout. Un championnat qui va rester très serré jusqu'à sa fin la semaine prochaine. Dans un instant, Valérie Darmon, Roland Pérez, on va parler de nos congés payés. Que faire s'il vous en reste d'ici la fin mai? Ça vous concerne, c'est votre matinale week-end. À tout de suite, on parle de vous.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne, c'est votre rendez-vous pratique du dimanche matin dans votre matinale week-end sur Europe 1 avec Valérie Darmon, avec Roland Pérez. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez posé tous vos congés payés? Attention, c'est avant la fin mai, sinon bien, vous les perdez. Donc, mais dans certains cas bien précis, on peut les reporter. C'est votre dossier du jour, Valérie.
Effectivement, Thierry, et je crois que vous êtes d'ailleurs dans ce cas-là.
Hein,
c'est ça,
oui,
ça nous a donné des idées de chronique, tout comme Isabelle, chef de projet dans une agence de communication, qui perd depuis des années ses congés, faute de remplaçants dans son service notamment.
C'est une vraie galère parce qu'en fait, toute l'année, je me demande comment solder mes congés payés. Ça fait quand même 10 ans que je suis dans cette agence de communication et c'est toujours le même casse-tête. J'en prends quand même un peu plus qu'avant. Mais aujourd'hui, on est surchargé de dossiers, on a des gros clients, on ne peut pas confier ces dossiers en plus à n'importe qui. Donc, on est un peu en sous-effectif. Et quand l'une d'entre nous prend des jours, les autres sont surchargés. Et même si je prenais des jours, je devrais dérouler mes mails et travailler à distance. Là, il me reste 19 jours à prendre. Alors, si je les prenais à mi-mai, je ne serais pas là tout le mois, donc c'est pas possible. Sinon, il faudrait que je prenne sur moi, que je cesse de culpabiliser pour les prendre. Et là, évidemment, c'est pas gagné. Et en plus, on n'a pas de compte épargne-temps dans notre agence, donc je me suis habituée à les perdre.
Ben oui, je comprends, Isabelle, moi.
Ben oui, vous êtes dans le même cas. Voilà, alors comme tous les salariés, Isabelle a acquis pour congé payé 2,5 jours ouvrables par mois sur une période de référence qui s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Ouais.
Les congés payés acquis doivent être posés avant la date du 31 mai, tout cela on le sait. Si les congés ne sont pas soldés avant cette date, ils sont définitivement perdus par le salarié. Avec le Covid et le télétravail, le stock de congés a encore plus gonflé que d'habitude et vous êtes quelques 26 millions de salariés français à pouvoir en bénéficier.
Mais Valérie, vous dites définitivement, perdu définitivement. Il y a des dérogations ou pas?
Alors oui, absolument. Sous certaines conditions, un report est possible. Comme nous l'explique ce matin Maître Caroline Hénaud, spécialisée en droit social et de l'activité professionnelle. Bonjour Maître.
Bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour
à tous. Dans quel cas on peut demander un report de nos congés payés?
Alors, comme vous l'avez indiqué, congé payé non pris, congé payé perdu. Cela étant dit, vous pouvez toujours en fait demander à votre employeur de reporter les congés payés, mais en ce cas, il faut qu'il soit d'accord sur ce report.
Mmh.
Vous pouvez aussi en fait vérifier si dans votre convention collective, il n'existe pas des dispositions spécifiques quant au report des congés et si vous en remplissez les conditions. Vous pouvez aussi vérifier que vous ne rentrez pas en fait dans un cadre légal de report. Alors ça va être des cas quand même assez spécifiques, l'annualisation du temps de travail, la maladie, congé maladie, qu'il s'agisse en fait d'une maladie simple, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Et vous pouvez également affecter les congés non pris au compte d'épargne temps.
Il peut les imposer l'employeur, à quelles conditions, s'il y a surcharge de travail par exemple?
Alors il ne peut pas en fait employer le report sans l'accord du salarié, par contre l'employeur peut effectivement en fait imposer les congés payés. D'ailleurs les congés payés, ça fait partie en fait du pouvoir de direction de l'employeur, c'est à lui en fait d'organiser les congés payés.
Ouais.
À condition de respecter et de fixer la période de prise de congé et d'en informer 2 mois au préalable les salariés et de fixer l'ordre des départs des congés.
Est-ce qu'on peut donner ces jours de congé à un autre salarié?
Oui, tout à fait. En fait, vous avez un cas spécifique dans lequel le salarié peut faire don de ses jours de congé. Alors, c'est vraiment dans une circonstance particulière. Vous pouvez en faire bénéficier un collègue de travail qui est parent d'un enfant de moins de 20 ans qui serait atteint en fait d'une maladie, d'un handicap ou qui aurait été victime en fait d'un accident particulièrement grave. Également en cas de décès en fait d'un enfant âgé de moins de 25 ans.
Merci Maître Caroline Hainaut, spécialisée en droit social et de l'activité professionnelle.
Alors moi j'ai une question pour Roland. Est-ce qu'il est nécessaire de tout mettre par écrit, Roland ?
Ah bah, qui dit accord dit forcément un écrit, mais un échange de mails suffit. C'est pas la peine de commencer à s'envoyer des lettres recommandées, mais un écrit est vraiment important, c'est la reine des preuves.
Valérie, on peut aussi choisir de stocker ses congés sur son compte épargne-temps. Comment ça marche ?
Eh bah, le CET permet aux salariés de stocker des jours non pris et de les prendre ultérieurement, ce qui permet une certaine flexibilité pour le salarié et pour l'employeur. Il a été instauré d'ailleurs en juillet 1994 dans une loi relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, mais toutes les entreprises ne sont pas tenues d'y répondre. C'est bien ça, Roland, là aussi.
Elles ne sont pas tenues parce qu'elles n'ont pas tous des, ce qu'on appelle des comptes épargne-temps. C'est les conventions collectives qui fixent peut-être le recours à ces comptes épargne-temps. Mmh. Et s'il y en a, bah, c'est vraiment une chance pour une aubaine pour les salariés.
Merci pour ce dossier très concernant sur les congés payés. Dans un instant, les questions pour vous, Roland. On parle de quoi ce matin ?
Alors, on parle de nouveau, on a déjà parlé avec Valérie, des fraudes à l'identité bancaire. Et vous allez voir que là, ça craint un petit peu dans le cadre du versement des prestations sociales et du barème d'indemnisation des licenciements abusifs.
A tout de suite, ne quittez pas, on revient.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
8h-10, l'Info Express, Raphaël Delvolvé.
Emmanuel Macron arrive d'une minute à l'autre aux Émirats Arabes Unis. Il est sur place pour rendre hommage au président défunt, cher Khalifa, décédé vendredi. En conséquence, le toujours Premier ministre Jean Castex n'ira pas au Vatican aujourd'hui. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui représente la France pour la canonisation de Charles de Foucault. Un automobiliste connu pour sa proximité avec les thèses d'extrême droite, arrêté et placé en garde à vue hier soir à Paris. Il est accusé d'avoir tué par balle un individu après une bagarre dans le 18e arrondissement de la capitale. Et de 1000 victoires sur le circuit ATP pour Novak Djokovic, vainqueur du Norvégien Rude hier en demi-finale du tournoi de Rome. Il peut remporter le titre contre le grec Tsitsipas cet après-midi en finale. De bon augure pour le Serbe numéro 1 mondial à une semaine maintenant de Roland-Garros.
Merci Raphaël. La suite de Ça vous concerne dans un instant avec les questions pour Roland. A tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne, partie 2 avec Valérie Darmon, avec Roland Pérez. Et vos questions, Roland ? Alors, première question d'actu. On va commencer par la Cour des comptes qui alerte les ministres de la Santé et des Finances sur les fraudes bancaires commises à l'occasion du versement des prestations sociales. Expliquez-nous.
Alors, elle n'est pas contente, la Cour des comptes. Hein. Ouais. Vous savez que la Cour des comptes s'occupe de notre argent et de l'argent public. Mmh. Donc, effectivement, elle fait ce qu'on appelle des alertes. Et c'est ce qu'elle a fait sur ses réseaux sociaux et sur son site internet. En fait, elle parle de détournement, des identifications bancaires des uns et des autres à l'occasion du versement des prestations sociales. Ces détournements sont en augmentation constante, ce qui inquiète véritablement la Cour des comptes.
On en a déjà parlé avec Valérie de ces usurpations d'identité qui concernent cette fois le versement donc des prestations sociales. Si je vous suis bien, c'est bien cela.
Oui, avec la fabrication de faux RIB pour obtenir indûment l'argent des organismes de protection sociale et dont les victimes ne sont pas que les allocataires assurés, mais aussi les professionnels de la santé comme les pharmaciens, les médecins, les infirmiers. Ça peut aussi concerner les bailleurs qui reçoivent des aides au logement. Les escrocs n'ont aucune limite en la matière.
Et que préconise la Cour des comptes ?
Elle recommande aux organismes qui versent ces prestations de rapprocher systématiquement les coordonnées bancaires des bénéficiaires avec le fichier des comptes bancaires ouverts en France. C'est ce qu'on appelle, vous savez, le FICOBA. C'est un fichier tenu par l'administration fiscale. Il faudrait, dit la Cour des comptes, que ce rapprochement soit automatisé et donc systématique.
Et Roland, est-ce qu'on a des chiffres ?
Oui, les risques des détournements des prestations ont augmenté dans la période récente depuis 2016 par 10, ont été multipliés par 10, ce qui est très préoccupant.
C'est fou.
Et en euros, ça représente 157 millions d'euros. Et ce sont les banques en ligne, qu'on appelle les nouvelles banques également, qui, bien que très pratiques, favorisent ces fraudes. Mmh. Et en fait, quand les organismes de protection sociale reçoivent les RIB ou versent les aides, ils devraient faire le rapprochement avec le fichier des comptes bancaires. C'est ce qu'on a dit.
Et donc, les victimes que sont les assurés sociaux et les bénéficiaires de prestations sociales ne peuvent rien faire à leur niveau.
Voilà, c'est toute la difficulté, d'où l'intervention de la Cour des comptes.
Deuxième question, toujours dans l'actualité, Roland, avec une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue mercredi dernier, qui va, comme on dit, faire jurisprudence sur une question préoccupante pour tous les salariés, celle de la validité ou non du barème institué pour plafonner les indemnités à payer en cas de licenciement abusif. Et que répond, Roland, la Cour de cassation ?
Ça a été un casse-tête, hein, un renvoi entre les juges, entre les salariés, entre les organismes de défense des salariés. C'était une mesure phare et emblématique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron entré en vigueur dire en 2017, qui n'a eu de cesse d'être chahuté justement dans les prétoires, et pas seulement par les avocats, mais aussi par les juges. Et vous savez, ce barème d'application des indemnités de, finalement de rupture du contrat, ouais. Eh bien, ont été drastiquement réduites en considération de l'ancienneté que l'on avait dans l'entreprise. Mmh. Il était alors invoqué par les uns et les autres un article, l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, qui a vocation à être une règle supérieure aux lois françaises, comme le prévoit la Constitution.
Et que dit cette Convention internationale?
Elle dit que le juge doit pouvoir ordonner une réparation indemnitaire adéquate aux salariés.
Et donc, la Cour de cassation n'est pas d'accord avec cette analyse?
Non, la Cour de cassation, dans notre droit français, fait office de loi, même ouais. si ce n'est pas elle qui fait voter la loi. Et aujourd'hui, elle vient de dire dans sa chambre sociale, avec toutes les chambres réunies, mmh. eh bien, que ce barème doit trouver application.
Ouais. Et les syndicats des salariés sont, je crois, très mécontents oui, hein, de cette décision.
La CGT crie au scandale et il faudrait donc revenir à l'Assemblée pour faire voter de nouvelles dispositions. Mmh. Mais pour l'heure, la messe est dite.
Merci beaucoup, Roland. Merci, Valérie. On parlait des congés payés tout à l'heure avec Valérie. Qui dit congé payé dit vacances. Qui dit vacances dit j'oublie tout.
Ah oui,
bon dimanche.
Besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champée whisky. Ambiance folie toute la nuit.
Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Vacances, j'oublie tout, le groupe Élégant, c'était il y a, tenez-vous bien, 40 ans en 1982. À suivre, Anthony Favalli et l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. A tout de suite.